Jean-Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Refusez les potins et ragots.
Ça vous ennuie si je vomis?
Bien manger, c'est important.
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi?
Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Salut, bonjour à tous.
Salut,
bonsoir.
Bienvenue dans le Pop Cruise, l'émission qui vous emmène en voyage autour d'un thème en vous faisant visiter des œuvres de pop culture. Moi, c'est Pépé. Ma mission aujourd'hui va être d'animer ce joyeux bazar. Je suis accompagné de quatre vaillants gaillards menant tous une guerre personnelle.
Ils parlent de nous ?
Oui. Le premier, son combat, c'est la grammaire. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un grammar nazi ? À mes yeux, il est le chef de cette communauté, le Hitler de la grammaire. Boum, point Godwin dès les premières minutes. Des trentaines d'élèves en sont victimes chaque année. C'est Angelo. Comment vas-tu, Angelo ?
Ça va très bien.
Des trentaines.
Ça va très. Ouais, des trentaines, c'est au bas mot. Hein. J'ai 200 gamins par année, ils pleurent tous à un moment ou à un autre. Mais ça va bien.
C'est le prof nazi aussi.
Ouais. Également. Un autre, son fer de lance, le cinéma. Il veut partager sa passion au monde entier. Une population grandissante de centaines de victimes s'inflige elle-même des heures d'écoute de son podcast RMTP chaque Enculé. Mois. C'est Charlie.
Petite pub.
Ça va, Charlie? Moi, ça va bien. Après, bien, je viens de Disney, moi, ce week-end.
Il a un très beau chapeau, notre Charlie, aujourd'hui.
Il a le chapeau de Mickey dans Fantasia.
T'as l'air complètement con.
Ah ouais, je suis bien.
Ça lui va non, très bien.
Quelqu'un me dit, je suis désolé.
C'est pas le chapeau qui fait ça.
Ouais, moi, je pense que tu retires le chapeau, ça
change. Merci, Molus, t'es un vrai copain. Après plus de 20 ans d'amitié, voilà ce que ça donne.
Sa bataille, faire de Twitter une plateforme bienveillante et conviviale pour y partager des idées et faire émerger des solutions qui nous permettront de construire ensemble un avenir meilleur. Des centaines de tweetos sont victimes chaque jour de notre hater d'internet.
Pedro. Connard. C'est tellement vrai.
C'est tout ce que t'as dit.
Ouais.
En vrai.
Il te demande même pas si tu vas bien, il s'en fout.
Ça va, Pedro?
Oh, oui, je veux bien.
Je me suis reconnecté à Twitter après des mois pour aller voir si t'étais toujours un hater. Bon, bah oui.
Bah non.
Abonnez-vous au Grand Chef Pigeon.
Ah non, ça va.
Grand Chef Pigeon 3.
Je suis sarcastique.
Il a été tellement. Il a dû tellement changer qu'il est au Grand Chef Pigeon 3.
Mais non, c'est parce que mes pigeons meurent. Bah attends, c'est normal, ça a une durée de vie, les pigeons.
Ah bah oui,
je suis
bien sûr.
C'est vrai.
Une de ses luttes, parmi d'autres, est d'éduquer les gens à la musique, parce que c'est con, on n'écoute que de la merde. C'est surtout ses oreilles délicates, finalement, qui souffrent chaque fois qu'il allume un poste de radio. Mollusque, ça va?
Ça va, et je tiens à préciser que je suis sûrement le seul autour de cette table à m'être infligé un album de Jul en entier.
C'est faux,
pour voir
c'est
si faux, nous si sommes deux. Ça.
Nous sommes au moins deux.
Ah, bah,
et
bravo,
alors, quel est le
et
verdict,
alors, verdict?
C'est mal écrit, mais musicalement, c'est pas si naze que ça.
En fait, c'est assez entraînant, c'est marrant, ça fait danser.
Ouais,
c'est très
mais ça reste quand même mal écrit. Quoi.
Et j'ai un autre gars comme ça dans le viseur en ce moment, c'est Lorenzo. C'est déjà un petit cran au-dessus quand même en termes d'écriture. Mais...
Bah, Lorenzo, il se prend pas au sérieux.
C'est tellement
ouais,
drôle.
Mais Lorenzo, ouais, c'est ça, il se met en mode fun.
C'est extrêmement drôle. Ouais, c'est très très drôle.
Putain, je connais pas du tout.
Non, moi non plus.
Non. Oh là, les boomers.
Et au final, Jul non plus, je connais pas.
Et bah, vous ratez des trucs.
Bah, c'est pas mal.
Mais non.
Et bah, c'est pas mal de le rater, on est d'accord.
Est-ce que c'est un reco
Ah, Lorenzo,
tout de suite
ça pourrait,
au reco
hein. Lorenzo,
bah, je
ça
vous
pourrait.
Recommande d'écouter des trucs que vous n'avez pas l'habitude d'écouter.
Voilà,
moi,
c'est pas con.
Aimez,
ouais.
En fait,
on vous recommande de vous ouvrir le cul, bande de moules.
Voilà.
Et très bien,
du coup,
bah, merci beaucoup.
Et le
à tous.
Cinquième, il fait chier des centaines de personnes avec ses chroniques de 250 minutes.
Alors qu'on lui avait dit 250 mots.
C'est et Pépé, bien. Comment il va, Pépé?
Eh bah, ben, ça va très bien. Je suis ravi d'animer cet épisode. C'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus, les copains.
Oui.
Et on va commencer tout de suite par un petit quiz.
Allez,
non, on va s'introduire avant.
Exactement. Voilà, ah putain.
On va s'introduire avec ton chapeau. Oui.
Eh bien, oui, Mollusque. Parce que oui, finalement, le thème, bah, tu vas nous le présenter tout simplement.
Oui,
tout simplement. Et du coup, bah, c'était pas une mince affaire que d'écrire ce thème, donc j'ai invoqué quelqu'un à m'aider pour le faire. Et du coup, je vais essayer de l'appeler.
Tu m'entends?
Oui, on vous entend bien. Bonjour John Rambo. Donc je vous présente succinctement. Vous êtes donc militariste et philosophe. On pourrait dire que vous êtes le Bernard-Henri Lévy américain. C'est bien résumé.
Pas vraiment. Moi je vous en veux pas.
Ok, bon, merci de votre indulgence. Vous avez donc contribué à de nombreuses guerres. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment sur les impacts sur les populations?
C'est pas des civils bienveillants.
Enfin, vous avez l'occasion de vous exprimer dans notre émission, mais taisez un peu du vôtre, s'il vous plaît, John.
C'est vous qui m'avez appelé, pas moi.
Ah, pardon, John, je voulais pas vous vexer. Vous souhaitez toujours qu'on parle de votre expérience personnelle?
C'était pas ma guerre.
Vous pleurez, John?
Parce
que j'adore cette scène, on comprend rien.
Bon, on a perdu le jeune, donc je vais faire mon intro tout seul.
Est-ce que tu dis que c'est vraiment le thème, le nom pour les gens ou pas après?
Donc, c'était pas ma guerre. Cette phrase prononcée par John Rambo et de beaucoup d'entre nous étant gosses, avons repris sans la comprendre vraiment, ou peut-être en ne la comprenant que trop bien du haut de nos 10 piges. C'était pas ma guerre, je n'en suis pas l'instigateur, j'en étais qu'un maillon, que de la chair à canon. Dit comme ça, ça a du sens. C'était pas ma guerre, on m'y a envoyé combattre les despotes, dans cette jungle hostile où j'ai perdu la plupart de mes potes. Non, c'était pas sa guerre, il se l'est prise de plein fouet, sur place, comme à son retour. Mais pourtant, John Rambo y était, mitrailleuse à la main ou pilotant un hélico à 1 million de dollars. Si la guerre n'est pas celle de ceux qui y prennent part en tant que soldat, syndrome post-traumatique à la clé, peut-être n'est-elle pas non plus à ceux qui la subissent sans prendre les armes. Les gosses sous-alimentés, les parents inquiets, les reporters avec pour seule arme leur objectif et leur bonne volonté. Tout cela dont le quotidien se retrouve bouleversé par un conflit qui leur échappe pourrait aussi les hurler ces mots. C'était pas ma guerre et je n'aspire qu'à une vie normale. C'était pas ma guerre. Oui, nous l'avions bien comprise dès le début, cette simple phrase. Parce qu'elle retentit de façon universelle. Parce que, quelle que soit la position de l'individu qui s'y retrouve, elle est sur les lèvres ou dans la tête de tous ceux qui la vivent, ou à notre humble façon, tentent de s'y projeter. C'était pas ma guerre, c'est le cri du cœur, tant bien du vétéran que du civil, tous deux embarqués dans des événements dont ils ne comprennent pas le sens profond, et qui sont les faces d'une même pièce, celle du dommage collatéral. Pour cet épisode qui me tenait particulièrement à cœur, l'équipe du Pop Cruise va donc traiter de la guerre. Mais cette fois, pas question de parler de l'homme de la situation, ni du soldat héroïque. Non, pour une fois, nous parlerons des oubliés, des estropiés, des PTSD. Bref, de tous ceux qui n'ont que trop rarement droit au chapitre, de ces foutus dommages collatéraux.
Oui, très bien. Voilà. Merci, Molu.
Merci. C'était un bon début, très drôle, et bah, normal, le sujet est compliqué,
oui,
donc
il fallait bien remettre un peu. Ça me paraissait compliqué d'injecter de l'humour.
C'est un très beau point avec la chronique que je vais faire après.
Oui, bah oui.
Eh bien, on va pas enchaîner sur toi.
Non, du coup. C'était trop beau. On va faire un quiz avant.
Allez.
Flétris au contact du vent, sous mes poils gris, je sens le parmesan.
Stéphanie de Monaco.
Alors, pour ce quiz, pas simple de trouver une thématique pour le quiz reliant au sujet. Alors du coup, je suis parti, je vais vous expliquer ma logique. J'ai fait donc, c'est pas ma guerre, dommage collatéral, donc les personnes qui ne devraient pas être là, plus ou moins les intrus. Donc je vous ai fait un quiz d'intrus.
Okay, très bien.
Vous avez des ardoises devant vous, les gars, prenez-en une, un petit allez. Crayon.
Les Velda, ils sont où?
Ils sont juste dans le pot, juste en premier.
Oui, pardon, je les ai devant moi.
Donc oui, ça sera des... En fait, je vais pas vous donner les thèmes. Je vais vous donner une liste de mots, de noms, de ce que vous voulez, et à vous de trouver l'intrus au milieu. Un point par bonne réponse, okay. Tout simplement. Et il y en a 7. Les listes sont pas toujours du même nom, mais en général, c'est autour de 6-7 mots dans la liste.
Ça me paraît bizarre.
Il n'y a qu'un intrus par liste.
Il n'y a qu'un seul intrus.
Okay. Il y a combien de listes en tout?
Il y en a 7.
Allez.
Allez.
La première liste. Le premier, Angola. Le deuxième, Bénin. Cameroun. Sierra Leone. Suriname. Et le Tchad, pour finir. Je vous l'ai refait vite fait, mais normalement vous avez écrit petit à petit. Angola, Bénin, Cameroun, Sierra Leone, Suriname et Tchad. Il y a un intrus parmi ceux-là. Lequel était-ce?
C'est sûr que tout le monde connaît ce truc alors que c'est une émission américaine.
Allez, il va falloir choisir, Pépé, j'ai vu que t'as pas choisi. Ah, si tu mets de côté. Angelo, qu'est-ce que t'as mis? Allez, tiens. Il a mis le Cameroun. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord? Suriname, c'est les autres qui ont raison.
Ah merde.
Le Suriname est le seul pays qui ne vient pas d'Afrique et qui est en Amérique du Sud, contrairement au reste.
Et moi j'étais parti sur les conflits.
Et ouais.
Ah, je me suis fait baiser.
J'avoue que j'ai pas tout vérifié. Je dis pas que c'est pas improbable, mais le Suriname qui a pas de conflit, ça m'étonnerait.
Oui.
Je sais pas pourquoi. Le Suriname, pour info, qui est entre la Guyane et la Guyane française, ouais. Pour ceux qui ne savent pas où c'est.
Tout à fait.
La deuxième liste. Le premier mot est casse, C-A-2-S-E. Le deuxième, critique. Ensuite, mémoire. Ensuite, mort. Ensuite, pupille. Ensuite, solde. Et le dernier, testicule. Je vous le refais dans la casse, critique, mémoire, mort, pupille, solde, testicule.
What?
Quel est l'intrus parmi ceux-là?
Je n'ai pas le point commun. En tout
cas. Mais je vois rien.
Je vais au talent.
Tu vas au talent?
Casse, critique, mémoire, mort, pupille,
compliqué,
solde, testicule.
Je vais piffer aussi.
Enfin, le premier, je me dis que j'aurais dû l'avoir et je suis parti sur les conflits comme un connard.
Ouais.
Bon, là, c'est du pif, hein.
Ok. Moi, juste, tu as mis sol, il y a un sol de côté Pépé, il y a testicule du côté Angelo, et qu'est-ce qu'il met le Pedro?
Solde aussi.
Eh ben non, c'est bien testicule.
Allez,
ah, pourquoi? C'était trop évident.
Parce que tous les autres mots peuvent être au féminin et au masculin.
Oh, moi, j'étais encore parti sur la guerre, faut que j'arrête avec la guerre.
Donc, par exemple, une casse, un casse, un critique, une critique, etc. etc.
Mm-hmm. Attends, t'étais bien parti joué. Sur la guerre.
Ah, mais moi, je suis obsédé par la guerre depuis tout à l'heure. Hein. J'y vais au talent.
Mais les soldes.
Bah, un solde de guerre.
Ah oui, aïe, aïe.
Eh oui.
Qui c'est qui n'a marqué
un seul
de
tout compte.
T'as marqué un point là où nous tous on n'a pas marqué.
Eh oui, ça fait égalité, c'est bien.
Oh, c'est parfait.
Troisième, ça va être des noms d'acteurs et d'actrices.
Ah, alors je sais pas.
Jamel Debbouze.
C'est encore des conflits, ça.
Isabelle Nanty. Emma Decaune. Édouard Baer.
Attends.
Oui, je vois le truc.
Omar Sy. Et en dernier, Monica Bellucci. Je vous fais la liste. Jamel Debbouze, Isabelle Nanty, Emma Decaune, Édouard Baer, Omar Sy, Monica Bellucci.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, le chapeau est tombé.
Merde.
Il y en a un qui est un intrus. Un win, d'ailleurs, pour le coup.
Aïe.
Ça dépend sous quel angle tu choisis l'intrus, quoi.
Bah, merde, j'ai mis une liste assez longue que en espérant, j'avoue que j'ai pas tout vérifié, qu'il y ait que ça comme qui marche.
Allez, il faut choisir. Choisissons.
Merde, c'est qui le dernier? Je l'ai mal écrit.
Monica Bellucci.
Ah, ok.
Vas-y, Pépé. Choisis.
Allez,
Et du coup, du côté de Pedro, on a Emma Decaune qui n'est pas la bonne réponse, Monica Bellucci qui n'est pas la bonne réponse, et c'est Omar Sy la bonne réponse avec Angelo.
Qui n'a pas joué dans les Astérix.
C'est ça.
Le seul qui
n'a pas joué. Alors si, non, en fait, il a joué, mais qui n'est pas dans le montage final d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Ok, d'accord.
Ah, il a joué dedans.
Est-ce que je vais jouer le passé du MNM?
En fait, tu vois, j'étais parti sur la seule qui n'était pas française.
Ah oui.
Oui, c'est vrai que ça peut marcher.
Et du coup, j'ai hésité entre ne pas, enfin, la seule qui est pas française ou celle qui a pas joué dans Astérix, je me suis planté.
J'ai hésité avec Emma Decaune, mais ouais,
effectivement, elle a joué une des servantes de Cléopâtre.
Tout à fait. C'est ce jour-là que je suis tombé amoureux d'Emma Decaune.
Ah, elle était belle. Enfin, elle l'est toujours. Mais...
Alors oui, là, j'imagine que ça va être complètement au hasard. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais, le premier, c'est les filtres à café.
Oh merde.
Le deuxième, le Monopoly.
Monoprix, t'as dit?
Monopoly.
Ah, Monopoly.
Excuse-moi. En troisième, l'hydravion.
Putain, mais c'est quoi ça, connerie, là?
En quatrième, les essuie-glaces.
C'est le nombre de points dans un Scrabble.
Ouais, c'est clair, ça marche bien. Et en cinquième et dernier, les appareils sans fil. Donc, les filtres à café, le mono. L'hydravion, les essuie-glaces et les appareils sans fil. Lequel est l'intrus? Popopopo. J'avoue que celui-ci, si vous l'avez en le sachant, bravo. Je savais que celui-ci était dur. Alors, on a un Monopoly, on a un appareil sans fil, on a un hydravion.
Oui.
Et deux hydravions, et c'est bien l'hydravion.
Bah, et pourquoi, à votre avis ? C'est le seul truc qu'on peut pas acheter dans un supermarché.
Ah non. Moi, c'est pas ça, c'est par rapport au pluriel.
Eh ben non, non, c'est par rapport à qui l'a inventé. L'hydravion a été inventé par un homme, contrairement au reste qui a été inventé par des femmes.
Eh ben, talent total.
Voilà.
Merci, voilà. Au revoir. Alors,
le hasard, c'est pas du talent.
Si, je prends ça comme du talent.
Cinquième, antépénultième.
Allez.
Alors, je l'ai précisé, mais c'est le film Taxi. Parce que si j'avais dit que le mot taxi au cas où. On va parler que de film. Ça sera, enfin, film et série.
Ok.
Prison Break.
Oula.
Oui, d'ailleurs, je dis film et série dans plein de trucs pop culture. The Ketchup. Des Last Ketchup.
Ok, rien à voir.
What?
Doctor Sleep de Stephen King.
Quoi?
Et Les Rats, la série de dessins animés d'Eric et Ramsey. Je vous redis au cas où pour que vous sachiez de quoi je parle. La liste, donc le film Taxi, Prison Break, The Ketchup des Last Ketchup, Doctor Sleep ou Les Rats. On est en plein pop culture là, on a un peu de tout.
Pas de panique à bord. Je vois pas du tout.
Alors ça sera un petit rappel, on a du Rats et on a un Doctor Sleep. Et ben malheureusement c'est le film Taxi, c'est un petit rappel de notre dernier épisode, c'est le seul qui est sorti dans les années 90 contrairement aux autres dans les années 2000.
C'est chaud.
Je savais celui-ci, mais il fallait faire un petit rappel par rapport à l'épisode d'avant.
Non, en fait, j'ai pensé à ça, mais je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que les Rats étaient sortis dans les années 2010 et que les autres étaient sortis dans les années 2000.
Mais ouais, non, j'ai cherché. C'est pour ça que j'ai bien dit le film Taxi, le premier, parce que c'est 98.
Ouais.
Il y en a combien après ?
Il y en a 4.
Ouah, non, plus, non ?
C'était le cinquième, celui de Gaston Bide ?
Non, je crois bien.
Ah, peut-être 5, ouais, du coup.
Je sais pas.
Avant-dernier, ça va être des noms d'animaux imaginaires ou réels.
Sympa.
Le bœuf ou bœuf. Le chien waf waf.
C'est dur. Hein.
Putain, quoi.
Le dragon.
Ah oui, il est chelou ton dragon.
Le serpent. Le singe. Et le dernier, le renard. What does the fox say?
What does the fox say?
Donc, bœuf, chien, dragon, serpent, singe, oh, renard. Quel est l'intrus?
Fais chier.
Bah. C'est évident, mais.
Il y a plein de façons de répondre.
Du coup,
pareil, tu peux faire des listes. Tu peux faire des listes.
Ouais, vous avez mis dragon, singe. Et il met quoi le Pedro ?
Renard, allez.
Renard. Et c'est bien renard.
Mais... Oh,
parce que tous les autres sont des animaux de l'astrologie chinoise.
Oh la vache, c'est comme ça ! Alors pour le coup, j'avais même l'explication.
Je te mets un petit point de côté en cas de... d'égalité.
Allez.
Putain, il est pute le chat.
Ouais, c'est malveillant les quiz depuis quelques
années. Ah ouais, hein. Enfin, c'est fini à l'époque.
Ah bah sur de la fille de puterie, hein, puis,
Et on va finir avec une liste de films.
Oh,
Batman.
Lequel ?
Batman.
Le seul. Le Nick.
Beetlejuice. Beetlejuice.
À l'anglaise. Beetlejuice.
Dumbo. Ou Dumbo pour les gens qui le disent bien.
Personne ne dit Dumbo.
Dumbo. Edward aux mains d'argent. L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Oh, je sens bon,
on l'a tous.
Et The Last One, Mars Attack. Avec un point d'exclamation à la fin. Donc la liste, Batman, Beetlejuice, Dumbo, Edouard en main d'argent, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Mars Attack.
Mais attends.
Ça me paraît très évident, alors j'ai un peu peur.
Oui.
Hein? Si c'est évident, c'est que t'as tort.
Oui.
Si c'est évident, c'est que j'ai tort.
Ah mais oui, c'est sûr qu'il y a forcément un piège.
Mais ils les donnent tous.
5, 4,
bon, bah, écoute,
3, 2, 1. Et du coup, on a deux Dumbo. On me juste qu'il a un Dumbo et non, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack qui n'a pas été réalisé par Tim Burton.
Ah, ouais. Et oui, il l'a pas réalisé, non, il a juste produit.
Il l'a scénarisé.
D'accord, d'accord, je savais pas.
Ah, ok. Et oui, Dumbo, c'était lui. Ouais.
Ça ne s'est pas
passé. J'ai mis Dumbo au pire.
C'est Dumbo qui m'a mis doute et je me suis dit, c'est ça le putain de piège.
Et bah, Pedro, t'as même pas besoin du point au cas où. Parce que tu gagnes avec 4 points et quand j'ai 3 points, il m'a juste.
Putain, j'en ai marre de 2.
Non, j'ai un point, pardon.
Le petit point du début.
Dumbo.
Du coup, pour le petit quiz.
Avec une réponse totalement au pif, comme dans
le lot. Il était sévère, il était sévère ce quiz.
Ouais, c'était méchant.
Bah oui, mais on n'est pas là pour être gentil.
On n'est pas venu là pour être ici.
C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi ce thème. C'était pas ma garde.
C'était pas ma garde.
C'était pas mon quiz.
Mais c'est ta vengeance pour le coup.
Et ben merci Charlie pour ce quiz très sévère mais qui nous aura appris plein de choses. Et on va commencer par Angelo.
Il galère.
Ouais.
Ah, j'ai pris son lien.
Ah oui, mais il s'est foiré.
Je vais donc vous parler de Fantasia ce soir. Je vais vous parler de First Blood. Je vais vous parler de First Blood, plus connu évidemment sous nos contrées sous le nom de
John Rambo.
Rambo.
Enfin, peut-être Charlie dit Rumbo.
Ou Rumbo pour les chachas.
C'est ça, donc c'est de Tim Burton, non?
Ouais, non, il l'a produit, il l'a écrit même. Donc oui, First Blood, c'est un film. Je vais vous parler d'un long métrage. D'un long métrage, je vais vous en parler en deux parties. Je vais m'attaquer dans un premier lieu sur son synopsis, en essayant au maximum de ne rien vous divulgacher comme d'habitude, et pour m'attarder dans un second plan sur John Rambo, chasseur et victime, et donc les liens avec notre thématique de ce soir. Pour commencer, je vais vous donner quelques éléments contextuels. Donc First Blood, plus connu par la suite sous le nom de Rambo 2. First Blood, est un long métrage réalisé par Ted Kotcheff. Donc, alors je me suis renseigné sur le monsieur, c'est un Canadien issu du monde de la télé, il n'y a pas grand chose de notoire à dire dessus. Et coécrit par Tonton Sly, qui joue également le rôle principal de John Rambo. C'est un film distribué aux États-Unis dans les salles en 1982 et un an plus tard pour la France sous le nom de Rambo. C'est un film d'action qui est adapté du roman du même nom par David Morel, édité en 1972. D'ailleurs, il faut savoir que ce roman a déjà essayé d'être adapté en film plusieurs fois et en fait c'est Stallone qui aura réussi le premier.
J'ai juste une petite question, oui. Juste pour me par rapport à Rocky, c'est longtemps avant, longtemps après?
Rocky premier du nom, 1976.
Ok,
il faut savoir que ce film, malgré une réception timide par les critiques, le film deviendra un succès commercial en grangeant plus de 156 millions de dollars pour un budget initial de 15 millions.
Bon, c'est donc une semaine de boulot, quoi.
Ça suit la même trajectoire que ça suit la même trajectoire que le premier Rocky. Le premier Rocky, c'est une misère encore en budget. Son succès fera évidemment réévaluer les critiques sur son sort et ouvrira la porte à une franchise de 4 suites sans compter les produits et médias dérivés. Une petite anecdote, messieurs, c'est le premier blockbuster américain qui sortira en Chine en 1985 et qui détiendra le record du plus grand nombre d'entrées pour un film américain jusqu'en 2018.
2018, ah oui, tu pars quoi, un Fast and Furious de merde?
Eh ben, je vous laisse deviner 2018, tiens.
C'est un blockbuster
Avatar.
Aussi
c'est un
Marvel.
C'est un gros blockbuster.
Le Endgame, ah
c'est
comme ça.
C'est Avengers Endgame de Marvel. Voilà. C'est un petit peu triste, je trouve, du coup, de se faire détrôner par un
mais autant de temps, alors que ça fait...
Ah, c'est incroyable, hein. Parce que le cinéma, tu rentrais pas autant avant, quoi.
Il n'y avait pas autant de monde à y aller, maintenant, il y a beaucoup plus de monde, donc c'est quand même
plutôt comme ça. Mais ça continue à être diffusé depuis des années.
Ouais,
puis c'est qu'il n'y a rien qui est rentré...
Bah, le marché s'est ouvert aussi entre temps, enfin voilà. Ouais. Quoi. Sachant d'ailleurs que les Chinois coproduisent aussi des Marvel. Bon, bref, parenthèse refermée. Synopsis. John Rambo est un soldat vétéran de la guerre du Vietnam, ancien membre des forces spéciales, plus connu sous leur surnom de Béret Vert. C'est un homme solitaire, troublé. Taiseux et incompris qui entame un voyage personnel aux alentours de la petite ville fictive de Hope dans l'état de Washington afin de retrouver et de visiter l'un de ses ex-camarades de guerre. Il rencontrera dès le tout début du film la femme de ce dernier qui lui apprendra que l'homme est mort aux suites d'un cancer à cause de sa surexposition à l'agent orange. Tiens, est-ce qu'on peut expliquer brièvement, messieurs, grâce à votre aide, à nos auditeurs, qu'est-ce que l'agent orange ?
Alors, l'agent orange, c'était...
Je l'ai pas dit, moi.
C'était un inflammable qui était utilisé beaucoup au Vietnam, justement pour... Pour tuer les gens.
Une sorte de gaz moutarde un peu, mais.
Alors c'est bizarre, c'est pas du napalm, mais c'est encore un autre truc.
C'est pas j'adore le napalm, l'odeur de napalm.
Non, c'est pas exactement ça, mais en gros, ils ont pulvérisé énormément, les États-Unis ont pulvérisé énormément au Vietnam, justement pour tuer un petit peu les rebelles qui étaient là-bas. Quoi.
En fait, l'agent orange, c'était un mélange toxique qui était fait pour détruire les cultures, et en fait, ça détruit les gens par la
ça détruit les gens. C'est ce qui est utilisé maintenant par Monsanto.
Et oui, c'est vrai que Monsanto utilise encore des ingrédients.
Bah, c'est eux qui l'ont créé, je crois.
Mais... Et par le teinturier de Donald Trump, mais c'est une autre histoire.
Mais nous en parlerons une autre fois. Désormais encore plus. Alors donc il apprend du coup que son ancien copain est mort. Désormais encore plus solitaire, troublé et très visiblement déboussolé, John reprend ses pérégrinations vers la petite ville voisine où le shérif Will Teasel le ziote dans la rue et le prend presque immédiatement en grippe. Pourquoi ? Parce qu'il est pas de chez nous, comme dirait un certain ministre de l'Intérieur. Il raccompagnera John jusqu'à la sortie de la ville en lui indiquant la direction de Portland au sud et bon débarras. Sauf que notre protagoniste principal, affamé et fatigué, souhaitait seulement s'arrêter dans une bonne auberge avant de reprendre la route pour de bon. Le shérif, lui, le voit faire demi-tour et l'arrête aussitôt pour vagabondage, refus d'obtempérer et possession d'armes, son couteau de guerre. Et quand John sera patâté en cellule, il fera la triste rencontre avec le sadique chief deputy Art Galt qui le tabassera et réveillera de vieux traumas de scènes de torture auxquelles John fut victime dans cette saloperie de Vietnam. Quand ils tenteront de le raser en force, afin qu'il soit présentable pour le tribunal, John va vriller complet. Et j'arrête là le développement de l'histoire car la suite, je vous laisserai la découvrir si vous n'avez pas encore vu ce classique.
D'accord.
Voilà.
Ok.
C'est pas mal.
Parce qu'après ça part en couille quand même.
Ah bah ça part grand. Mais justement, c'est pour ça que je n'en dis pas plus. Je vais donc m'attarder sur l'analyse et les liens justement avec les dommages collatéraux. Donc John Rambo, chasseur et victime, et donc les liens avec notre thématique de ce soir. Si je devais très grossièrement résumer l'analyse du développement du personnage de Rambo dans ce film, je dirais que c'est un homme complexe, évidemment, très évidemment blessé et traumatisé, et qui va dans ce film avoir le rôle de victime. Persécuté puis chassé par la police locale, et puis qui va totalement retourner la vapeur et inverser les rôles dès lors que la chasse à l'homme va changer d'environnement et prendre place dans la nature sauvage des forêts primaires de l'état de Washington. John va réveiller ses vieux démons, puis en devenir un lui-même, en martyrisant, non sans un certain plaisir pour le spectateur, qui va vite se prendre d'affection pour cet homme victime d'injustice, incarné avec brio par Tonton Sly, les différents membres de la police qui vont se chier dessus dans une forêt plongée dans la nuit et l'orage.
C'est exactement ça.
C'est vraiment ça.
Rambo s'attaquera d'ailleurs directement au shérif, qui sera au bout de sa vie dans une chasse à l'homme qui tourne au cauchemar. Alors, il faut savoir que moi, ce film, je l'ai vu et revu en VO, mais j'ai cherché dans la VF, ça donne
« En ville, tu fais la loi ». Ici, c'est moi. Alors fais pas chier. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Ah putain, mais
je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Ouais. T'es le, ici, il c'est moi la loi. La en fait, barbe, ça vient de ça, mais ça
c'est
un peu
déjà. Judge Dredd. Et c'est très précisément là, pour en venir au fait de mon analyse, c'est très précisément là, quand Rambo passe de victime chassée à chasseur, que le spectateur comprend que cet homme est totalement perdu et n'arrive plus à se raccrocher à la réalité actuelle. Il n'est plus sur un lieu de guerre, il n'est plus dans un environnement de combat, mais tous ses repères, il les a complètement perdus. John Rambo est donc une victime qui va redevenir un chasseur, puis de nouveau une victime vers la fin du film quand les retrouvailles avec son colonel Sam Trotman vont déverrouiller ses expériences traumatiques qu'il va raconter et délivrer dans une séquence émouvante et culte.
C'était pas ma guerre,
et le faire réaliser qu'il est, depuis le retour du front, inapte à s'intégrer dans la société civile car il est sous l'emprise de PTSD, en français, état de stress post-traumatique. Et post-traumatique perpétuel, hein, pour ce pauvre John Rambo. Voilà, messieurs, je conclurai cette chronique en vous renouvelant une énième fois mon amour pour mon tonton Sly et en rappelant aux auditeurs que le premier Rambo est presque exactement comme le premier Rocky, c'est-à-dire un film à l'image de son personnage, qui est attachant, amoché par la vie, un loser qui tente de faire son chemin mais qui se prend des baffes dans la gueule par la vie. Encore une fois, une forme de chronique sociale. Un film qui ne partage rien avec ses suites successives, si ce n'est son nom. Ne vous faites pas avoir donc, chers auditeurs, regardez le premier Rambo, regardez le premier Rocky, puis revenez me dire après que ce sont des navets qu'on rigole 5 minutes. Voilà.
C'est très bien.
C'est tout à fait vrai.
Et ça, c'est vrai, parce que franchement, bah, comme en fait, dans la préparation, Bolus nous a dit oui, Rambo, il a l'image du mec qui déflingue à fond et tout machin, mais en fait, c'est l'image des autres Rambo, contrairement au premier. On
ne défonce
pas
en,
des gens.
En fait, ça, je le reconnais très bien. Enfin, c'est, pour moi, c'est un charclos, en fait, qui est trauma à vie. Quoi. Mais en fait, les suites, les autres films ont complètement détruit ce truc-là et on fait un espèce de soldat indestructible.
Il y a des compteurs sur Internet du nombre de morts par film de Rambo. C'est genre le premier, on en a 10 ou 15, j'en sais rien.
Dans le premier, il y en a un.
Il y en a qu'un.
Et dans le dernier, t'en as 100, mais c'est n'importe quoi.
Dans le premier, il y en a un et dans le deux, il y en a déjà...
C'est pareil pour tous les films qui n'ont pas su s'arrêter comme ça. Regarde Die Hard. Je sais pas si vous avez vu les 4 et 5, mais c'est catastrophique.
Non, mais eux, ils ont vu les 3 premiers.
En fait, dans le Rambo 1, c'est un film qui est économe en dialogue.
Oui, c'est vrai.
Ça parle tellement pas. Rambo, tu vois.
Mais c'est moins social, quand même.
Tu vois parler 2-3 fois. Et dans le 3, je sais plus, c'est là que t'as la fameuse réplique « Où sont les missiles, machin ?»« Tout près, ils sont dans ton cul. » en fait, là, il parle trop, le film, et il parle juste pour dire de la merde. T'as pas envie de le voir.
Exactement.
Mais c'est oui, comme tu l'as dit, c'est pas un film social. C'est pas le même que Rocky.
C'est pas un film social.
C'est sur une thématique intéressante. Ouais, pour moi, c'est pas pareil.
C'est plus psychologique que social, je trouve.
C'est-à-dire qu'à la fin...
Ou sociétal, si tu préfères.
Il a quand même fallu réintégrer les mecs qui revenaient du Vietnam.
Voilà, en fait, c'est-à-dire que
c'est une question qui s'est posée.
C'est un des premiers films qui parle de stress post-traumatique. Et dans lequel, alors je vous rappelle, 82, donc les souvenirs chez le spectateur américain, le souvenir de la guerre du Vietnam est encore frais.
Oui, par contre, c'est ça.
Et ça fait partie justement de ces premiers films où il se pose un peu comme un anti-héros et un mec véritablement victime de la guerre qui n'arrive pas à se réintégrer dans la société civile.
Et puis qui fout le bordel, quoi.
Et qui fout
véritablement le bordel, même s'il a été tabassé avant.
Et j'en dirai pas plus parce que je vous laisserai découvrir, mais il fout la ville à feu et à sang.
Ah bah, la ville, la forêt.
Le shérif qui disait moi je fais la loi, toi t'es un vagabond, dégages. Bah, le shérif il prend tarif.
J'avoue, je me le suis rematé là, du coup, il y a pas longtemps, enfin, au moment où on a décidé, et il y avait un côté un peu. Maman, j'ai raté l'avion par moment. il déverse des barils de poudre à côté de munitions, puis il tire dessus et il se barre. Du coup, le shérif il croit qu'il y a une fusillade alors qu'en fait c'est juste les munitions qui explosent à cause de l'incendie.
Il bricole un truc avec son poncho aussi à un moment donné.
Il y a un truc comme ça
avec son
côté un peu marrant aussi.
C'est un côté MacGyver aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est justement là où le spectateur aussi se rend compte qu'il se transforme totalement et redevient le soldat, la machine à tuer qu'il était auparavant.
Oui, au moment où il met son poncho.
Là, on se rend compte que le mec dans la nature peut survivre 30 jours, et justement, exactement au même moment, une scène après, on se rend compte que les policiers sont totalement dépossédés de leur environnement et qu'ils vont prendre tarif. Voilà.
Oui. Mais tu vois, tu l'as montré cette scène où il a son ancien commandant, où on comprend rien d'ailleurs en français, à part le c'était pas bagarre, et au milieu.
Heureusement
que tu l'as dit.
En fait, j'ai tronqué un peu, mais en gros, il explique comment, comment il a perdu tous ses potes là-bas.
Ça montre bien juste. Enfin, l'état où il est, où en fait, il n'arrive plus à s'arrêter, et en même temps, il est que c'est pas bien.
Ça devient un exutoire quand il rencontre le colonel. Et c'est marrant parce que la VF, du coup, je la connaissais pas trop, mais la VO est plus compréhensible. Enfin, il pleure, mais tu comprends ce qu'il dit. En fait, dans la VO, il énumère un tous ses potes qu'il avait, qui sont morts dans d'atroces souffrances, en fait, dont un, ils avaient rendez-vous au bar. Et le mec a décidé de se faire cirer les pompes par un gamin. En fait, le gamin a posé une bombe dans sa godasse et du coup, il a des morceaux de son copain sur lui.
Oui, c'est ça. Bah, c'est ça qui
est. Je la trouve très émouvante cette scène.
Le
tonton Sly, quoi. Enfin, incroyable.
Bah, avec la voix en VF, c'est ça.
Pas pareil. C'est dommage. Ça le rend brutasse. Alors que dans la VO, c'est beaucoup plus émouvant.
Ouais, mais moi, je suis habitué à la VF.
Ah non, parce que tu le vois renifler, vraiment en sanglots et sous le bordel. Saviez-vous d'ailleurs que c'est le papa d'Aurore Berger qui fait la voix de Stallone?
Ah ouais. Non, pardon.
Non. Ah si, c'est vrai par contre.
Ah c'est vrai.
Oui.
Okay. Il est pas responsable.
Ouais, j'aime bien Rambo,
mais je pense qu'il a donné sa
éducation. J'aime bien Rambo, mais en fait c'est à l'inverse de Rocky, où Rocky tu détestes le personnage et petit à petit tu vas l'aimer. Rambo, même si on sait que c'est pas de sa faute, tu le détestes un peu. Enfin pas tu le détestes, mais tu commences à moins l'aimer parce qu'en fait même si c'est pas de sa faute, Il y va quand même, il vrille quand même. Mais tu veux juste l'aider? Tu veux l'aider, mais tu suis le parcours
du mec qui part en couille justement et qui à la fin du film, vraiment à la toute fin en fait,
va reconnaître
qu'il a un problème et
il exorcise ses démons à la fin,
se faire soigner quoi.
En fait, sans le dire, carrément.
Et d'ailleurs à la fin en fait, il reconnaît justement qu'il est victime de, sans le dire en fait, il reconnaît qu'il est victime de d'un état de stress post-traumatique sans le dire une seule fois. Mais le spectateur le comprend très bien.
Parce que déjà, ça fait trop de voyelles pour Sly.
Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'à cette époque-là, on en parlait déjà de ça ou pas?
Je suis même pas sûr qu'on utilisait le terme.
Pas sûr, non. Ou alors c'était très nouveau.
Ouais, sûrement pas. Mais par contre, ça a sûrement été développé à l'époque. Parce que,
De toute façon, c'est le Vietnam. Enfin, non, parce que je dirais pas que c'est le Vietnam.
J'avais hésité à parler à de l'échelle de Jacob, justement, qui décrit un peu aussi ce truc-là. Mais pas un mec qui part en couille, c'est plutôt un mec qui essaie de se réintégrer à la société. Mais qui va avoir des visions, des trucs très perturbants, mais vraiment cauchemardesques. Et je vous raconte pas la fin du film parce qu'il y a un vrai twist quand même, mais du coup qui traite un peu de ça, qui est super intéressant avec le même aspect sur le stress post-traumatique. Putain, j'arrive plus à le dire.
C'est pas facile à dire.
Mais du coup, maté aussi ce film-là qui a peut-être une autre approche du même phénomène qui est cool.
Bon, en tout cas, je vous invite à regarder le premier Rambo et à regarder le premier Rocky. Vous verrez que c'est formidable.
Et tu déconseilles les suites de Rambo
Je déconseille totalement les suites de Rambo.
Tout à fait.
Et les suites de Rocky aussi.
Alors que les suites de Rocky sont pour certaines regardables. Aussi plus que le Rambo, tu rigoles.
Tu fais ma gueule, t'as présenté Creed à mon podcast de Raconte-moi.
Ouais, mais alors là, on est. Pour moi, c'est les suites de Rocky. Oui, oui, mais là, on est loin. On est loin.
On est loin Rocky hein, aussi, d'ailleurs.
Après, Rambo 2, ça se regarde. Faut pas s'attendre au même genre de film,
c'est pour le plaisir de la
spectacle. C'est pas vraiment une suite.
Faut pas regarder les suites, mais j'aime bien Rocky 2, j'aime bien Rocky 3, j'aime bien Rocky 4. Quand j'étais gamin, la VHS, je l'ai torché, voilà. Mais c'est juste qu'avec un peu de recul, tu dis bah non, c'est pas une expérience cinématographique incroyable.
Si on veut aller par là, moi j'aime bien aussi Indiana Jones 4.
Mais moi aussi j'aime bien.
Si t'enlèves le coup d'Alien.
Très bien, merci beaucoup Angelo. Moi, je pense que je vais me le remater parce que ça fait très très longtemps.
C'était un vrai plaisir de le revoir.
Bien oublié. Mais on va passer maintenant à Pedro.
Allez, c'est à moi. Je croyais que je passais troisième. Je reviens, j'en ai pour une seconde. Je vais vous chercher l'objet de mon article de ce soir.
On voit le jingle.
Allez, voilà, super. Passez-moi donc un M&M, s'il vous plaît, chers amis. Merci.
Le rat. Le mec demande un M&M si je donne qu'un.
Il lui donne la moitié, il va demander un bol.
Moi, je vais prendre des crémas.
Qu'est-ce que quoi donc, de quoi je vais parler ce soir? Alors, attendez, excusez-moi, je me prends. Voilà.
Vas-y,
voilà, ça n'ira pas plus bas.
Tu vas bien.
Merci Mollusque. Je voulais vous parler. Je ne sais pas. J'espère que je vais. Merci Mollusque. J'espérais ne pas être hors sujet. Et après la relecture de cette œuvre que je vais vous présenter ce soir, je n'ai pas l'impression d'être hors sujet, mais c'est vous qui finalement allez me le dire. Quand on a abordé le thème qui nous anime ce soir, ce n'est pas ma guerre ou les dommages collatéraux. J'ai aussitôt pensé à la série de livres, la trilogie. De Pierre Lemaitre, Les Enfants de la Colère. Les Enfants de la Colère, c'est une trilogie qui commence par Au revoir là-haut, qui parle de la fin de la Première Guerre mondiale, le tout début des années 20, puis qui se poursuit par Couleur de l'incendie, et qui se termine par... J'ai un petit trou de mémoire, ça me reviendra tout à l'heure. Ce soir, c'est de Couleur de l'incendie dont je veux vous parler. C'est peut-être un choix un peu étonnant parce que ça parle pas à proprement parler de guerre, mais vraiment d'entre-deux-guerres. Mais pour moi, ça parle d'un véritable dommage collatéral, celui de traversé par des millions de Français ou d'Européens en tout cas à l'époque, à savoir le déclassement, la crise d'entre-deux-guerres et les petites vivissitudes de la vie des années 20 et début des années 30. Je vais vous faire passer le
de loin, ça me paraît dans le thème.
Oui, c'est dedans.
Donc je vous le disais, Couleur de l'incendie, bah, c'est le second volet de la trilogie Les Enfants du Désastre, et il a fait l'objet donc d'une adaptation cinématographique éponyme qui est sortie il y a un an de ça, deux ans de ça, je crois.
Donc c'est récent.
Oui. Alors le livre date de lui de 2018. Et c'est un second tome qui prend une dimension tout aussi personnelle et dramatique que Au revoir là-haut, parce que peut-être qu'Au revoir là-haut, ça vous parle un peu plus. Vous avez vu le film, lu le livre?
Non, je l'ai pas vu, mais ça, je voulais le voir au ciné. J'ai toujours voulu avoir envie de le voir, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire.
C'était la musique que j'ai mis parce que du coup, je me suis dit, c'est facile à trouver quoi.
Oui. Alors, au revoir là-haut, moi j'ai vu le film, j'ai lu le livre et j'ai lu l'adaptation en BD. Et pour Couleur de l'incendie, j'ai lu le livre et je me suis arrêté à la BD. Je suis pas allé voir le film l'année dernière. J'avais un peu peur d'être déçu.
C'est Dupontel? Non.
Non, c'est pas Dupontel cette fois-ci. Dupontel, c'était pour le premier. Ouais. Là, c'est Clovis Cornillac.
Ah.
Et Pierre Lemaitre d'ailleurs.
Clovis Cornillac à la réalisation.
Et Lemaitre qui l'a scénarisé.
D'accord.
Bon, c'est pas voilà, donc si le premier tome, je vous le disais, avait pour fond la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce roman, lui, prend racine dans une France des années 30, dans la France des années 30, fin des années 20, lorsque chacun veut faire sa propre fortune et que le nazisme et le fascisme s'installent. Donc on retrouve Madeleine. Madeleine, c'était la sœur du perso. Oui, bah oui, bravo. Il y a une scène.
Pépé, il m'a envoyé ça.
Je suis tombé sur une page. Il y a des voilà. Il y a
170 pages de BD, une page
de sexe,
une page de sexe, et vous tombez dessus. Bravo.
Voilà. C'est Pépé qui m'aide.
C'est superbe. Ouais. Et donc je vous disais qu'on retrouvait Madeleine. Madeleine, c'était la sœur du héros ou anti-héros du premier opus. Alors si vous ne l'avez pas lu, pour certains ça va peut-être pas être évident, je vais essayer de pas trop y faire référence, mais c'est quand même une suite assez directe et il y a pas mal de choses qui s'y rattachent. Donc Madeleine, c'est toujours une femme effacée par le pouvoir des hommes, mais qui, 7 ans après la mort de son frère, donc il se suicide à la fin du premier opus, est sur le point d'enterrer son père, Marcel Péricourt. Tous les proches de la famille sont là, même les journaux sont prêts à couvrir l'événement. D'ailleurs, je crois que le président de la République doit même venir aux obsèques. Mais lorsque le cortège funéraire s'avance, c'est Paul, le fils de Madeleine, qui a 7 ans, je crois, à ce moment-là, qui fait sensation. Il est l'objet d'un événement dramatique et qui va entraîner une suite de péripéties tout aussi surprenantes les unes que les autres. Alors, pour ceux qui ont en tête la dernière image de la BD, la dernière image du film, la dernière page du roman, pour Au revoir là-haut, l'oncle donc de Paul se jette littéralement dans le vide. Et bien là, on va dire que Paul l'imite. On se rappelle que dans la première opus, Madeleine avait fait au mieux pour maintenir son père en bonne santé. Et donc, elle s'était considérablement rapprochée de lui, et que ce père, qu'on trouvait assez dur au début de la saga, finalement, était devenu un petit peu plus aimant, notamment auprès du frère de Madeleine, malheureusement décédé. À la fin de cet opus, d'ailleurs, Madeleine divorçait de son mari, qui était, lui, condamné pour ses malfaçons à la suite de la Première Guerre mondiale. Je suis désolé, le résumé est un petit peu chiant, mais
il faut mettre le truc. Hein.
Dans le second tome, on retrouve Madeleine, elle, prisonnière de la position qui lui a été attribuée par son père, en fait, et, qui est assez, en fait, une position de victimaire. Elle est toujours une femme contrainte à l'action, mais cette fois-ci, elle est vraiment anéantie par ce qu'elle va rencontrer assez rapidement dans l'œuvre. Je vois qu'Angelo, t'es en train de la feuilleter. Là, tu vois, déjà, au milieu de l'œuvre, t'es déjà dans le moment que j'appellerais la vengeance.
Il y a beaucoup de sexe, hein, quand même, à chaque fois que je te mets.
Non, franchement, je pense qu'il y a deux
trois,
pages, quoi.
Déjà trois, là.
Allez.
Oui, tu vois encore nu de temps en temps, ça va.
Donc, comme son fils est gravement blessé au début de l'œuvre, elle n'arrive plus tellement à s'occuper de tout ce qui est banque et compagnie, elle confie ça à ses proches. Et ses proches, donc principalement des hommes, la prennent encore pour la potiche de service, en fait, pour un meuble. Ils cherchent à essayer de lui... pas vraiment de lui nuire, en fait, mais de faire leur chou gras sur son dos. Voilà, notamment un homme dont on va parler un petit peu plus... un petit peu plus longuement tout de suite, qui est Joubert. Joubert, dans le premier opus, c'était l'espèce de banquier de famille, un petit peu. Et suite au divorce de Madeleine, il y avait un rapprochement qui avait été tenté par le père, et finalement, le mariage n'a pas eu lieu. Et bah, Joubert, il saura s'en rappeler en essayant de carotter un petit peu Madeleine du pognon tout le début du bouquin. Mmh. Voilà, donc Madeleine est comme dans le premier opus, prisonnière du jugement des hommes. Et lorsqu'il lui arrive le temps vraiment d'agir, eh ben, elle le fera quand même accompagnée d'un homme. Alors c'est peut-être le seul reproche que je ferai au bouquin, c'est que Pierre Lemaitre, il a une écriture qui est assez amusante. En fait, c'est un polar historique, c'est assez étonnant, mais et dedans on y retrouve des pattes de saga un peu années 70-80, de saga noire avec de l'humour un peu comment dire, qui passe par le verbiage, qui passe par le parler un peu parisien et ce genre de choses.
Ah oui, okay.
Et je sais pas, dans les films ça pourrait donner les Ripoux par exemple, ou ouais, ce genre de truc.
Ouais, complètement. Alors qu'il n'y aurait pas spécialement besoin. Alors que
pour voilà, fois, exactement, mais ça vient renforcer. Mmh. Et malgré ça, il a également des idées politiques qui sont assez marquées. Pierre Lemaitre, il ne se cache pas d'ailleurs d'être dans la vie de tous les jours plutôt gauche, bien bien gauche. Et clairement, il démontre une société vraiment puante de l'argent. Mmh. Et je trouve que c'est assez moderne, son écriture est assez moderne pour parler des années 30. Mmh. Et c'est peut-être le seul truc qui rate, je trouve, c'est que Madeleine est quelqu'un d'extrêmement indépendant, mais elle se retrouve quand même à faire équipe avec un homme qui devient plus ou moins son amant au milieu du livre.
Pour l'époque, c'est assez logique en même temps.
Peut-être, mais c'est un roman d'invention, si tu veux. Il n'avait pas d'obligation de lui atteler à un personnage masculin. C'est peut-être le seul truc qui m'aidait plus. Donc
peut-être qu'il est resté sur le côté, mais... où à l'époque, tu sais, tu pouvais pas ouvrir un compte en banque sans être avec un homme ou des trucs comme ça.
Non, pas vraiment, on passe pas par ce genre de détails, mais c'est pas très grave. De toute façon, le personnage est quand même intéressant et amène quelque chose. C'est peut-être juste que c'était le dernier brin de modernité qu'aurait bien.
C'est comme dans Autant n'importe l'avant.
Ouais, c'est ça. T'as raison.
En vrai, c'est vraiment ça.
Voilà. Donc je vous parlais de Dupré. Je vous parlais de Dupré à l'instant. Donc Dupré, c'était un des hommes de main, plus ou moins du père, mais pour des basses besognes, mais pas non plus des trucs trop graves. C'est pas un grand bandit. Mais c'était un type avec une petite vertu en fait. Et c'est lui qui deviendra l'amant de Madeleine et qui l'aidera dans sa vengeance. Parce que Madeleine, en fait. Elle croise vraiment les pires saloperies du monde. Je vous parlais de Joubert, donc Joubert lui détourne de l'argent. Joubert la trompe en lui faisant croire de façon assez fourbe qu'il faut qu'elle investisse dans le pétrole roumain, qui au début des années 30 cartonnait, alors que lui-même est en train d'investir dans le pétrole irakien. Ça loupe pas, évidemment. Le pétrole roumain se casse la gueule, le pétrole irakien, lui, bondit, et du coup, il se retrouve avec une espèce de fortune qui passe de main en main.
Il a sa situation de dominance sur elle.
C'est ça. Dans le même temps, Léonce, qui est la femme de maison, en fait, après avoir été accusée de gonfler les factures depuis que Paul est en fauteuil roulant et donc il a besoin d'énormément de soins, elle est tensée par Joubert, donc qui gère un peu la fortune de la famille, et Madeleine, elle lui dit non, c'est moi qui ai déconné, c'est que je l'ai pas assez augmenté en fait, donc je l'augmente et puis on oublie tout. Et on apprend plus tard, un an plus tard, deux ans plus tard, qu'en fait elle s'est barrée avec Joubert, qu'elle espionnait pour son compte depuis des mois, et donc voilà, elle l'avait elle aussi trompée. Il y a son fils Paul qui avait un précepteur, quelqu'un qui lui faisait l'école à la maison depuis des années, qui reste au service de la famille malgré que Paul soit totalement impotent et n'ait pas envie de faire cours pendant des mois et des mois avant de devenir journaliste, parce qu'il écrivait un peu en freelance dans un journal tout en étant un peu précepteur. Et on apprend pareil des mois plus tard qu'en fait c'est lui qui a poussé Paul au suicide, parce que il avait régulièrement des rapports sexuels avec lui et des rapports de domination. Il se prenait pour son père, il le battait. Voilà.
Et donc 203,
Madeleine,
203 traîtres.
Madeleine qui a perdu son père, qui s'est fait vraiment downgradé par cette perte d'argent, parce que la fortune familiale était colossale. Les Péricourt, c'était dans le premier opus, on le voit, une très grande fortune française. C'était une grande banque française en fait. Et donc elle se retrouve ruinée. Elle a auprès d'elle donc l'homme de main de son père, et elle réussit à retourner en fait Léonce en lui disant en découvrant qu'elle a un amant, et en lui disant je vais tout révéler à Joubert. Et donc Léonce devient à son tour espionne pour elle. Et tous ces personnages, je vais pas aller plus loin parce que là j'ai résumé à peu près le premier tiers du livre, et après toute la mécanique se met en place, toute la vengeance d'une femme à qui il reste un peu de moyens quand même, hein. C'est pas non plus,
elle était pas tombée dans la rue non plus quoi.
Elle était pas à la rue, voilà, quand on parle des années 30 en plus, c'est des années relativement pauvres pour certaines populations, elle faisait encore partie d'une caste presque nantie, mais imaginez, c'était une des 10 plus grosses fortunes de France, et du jour au lendemain elle se retrouve avec une petite fortune bourgeoise de province, de quoi s'allier 2-3 hommes de main, de quoi monter quelques projets. Voilà. Et en fait, j'ai voulu vous parler de ce bouquin ce soir. Alors, je suis désolé, j'en parle un peu maladroitement, je m'en rends compte. Il y aura sûrement un peu de taf au montage, mais c'est pas grave, c'est le mien.
Bah, bon.
Mais c'est parce qu'en fait, vraiment, c'est la première œuvre qui parle de guerre sans parler de guerre, qui entre aussi violemment, avec autant de fracas dans un espèce de top de que je peux avoir, moi. J'ai toujours adoré les histoires autour de la guerre, toujours adoré, que ce soit Première ou Seconde Guerre mondiale, les histoires d'aviation, les histoires de... Et là, ça parle pas véritablement de guerre, ça parle d'entre-deux-guerres, et t'as l'impression pourtant que c'est encore plus violent presque que certains écrits.
Faut pas oublier ce qu'ils appelaient l'après-guerre, hein. Ils appelaient pas l'entre-deux-guerres, hein, pour le coup.
Tout à fait.
Ils étaient en pleine reconstruction, bon, il est.
Et puis on est juste avant la crise de 29 aux États-Unis, on est à une époque où les femmes n'ont pas encore le droit de vote, je vous le rappelle, où elles n'ont pas le droit de grand-chose d'ailleurs. Et en fait, ce récit-là, cette femme forte qui se fait matraquer dans le premier tiers du roman, et avant de se relever, c'est plus fort que tous les récits, je pense, d'exploits militaires que j'ai pu lire. Et voilà, pourtant c'est une pure victime de son époque. Pure victime des hommes, pure victime de la politique, pure victime de son... quand je dis de son époque, c'est avec tout ce que ça engendre. Et voilà, c'était pas sa guerre, c'était pas ses guerres, entre guillemets, c'était pas ses guerres financières non plus, c'était pas ses guerres politiques. Et elle a morflé parce que tous les gens qu'elle avait autour d'elle, étant une femme un peu richissime, tous les gens qu'elle avait autour d'elle frayaient dans ces castes-là, en fait. Mmh. Et quand elle s'est retrouvée à la tête de la fortune familiale après la mort du patriarche, elle a dégusté dans tous les sens, vraiment.
C'est vrai qu'elle aurait pu... En fait, je suis désolé, mais le parallèle avec Autant n'emporte le vent est vraiment... marche très bien. Parce que Scarlett Dora...
Je trouve, même si elle est moins passive, quand même.
Oui, mais c'est une fille de riche, et elle n'est pas du tout passive, Scarlett Dora. Son objectif, c'est juste qu'elle est obligée d'avoir un mec pour pouvoir faire tourner le truc, mais c'est un peu la même chose. À cause de la guerre de sécession, sa famille perd un peu la thune, elle est obligée de gérer le truc, elle décide de pas se marier parce que pour elle, c'est elle de gérer le truc, c'est pas un mec.
Je pense qu'ils s'en est inspiré. Hein.
Et du coup, je pense que le pari est vraiment très fort, quoi. Mais malheureusement, à cause de l'époque, elle est obligée d'avoir un homme à côté pour pouvoir gérer certains trucs. Pour l'époque, entre deux guerres, c'est par exemple ouvrir un compte en banque. Si t'as besoin de rouvrir un compte en banque, tu n'as pas le droit de le faire en tant que
femme. C'est vrai, t'as raison qu'il y a des.
Et du coup, je pense que
le parallèle est très fort. C'est vrai.
Mais par contre, oui, c'est l'air très intéressant pour le coup.
Ce qui est d'ailleurs encore un peu paradoxal à l'époque, parce que si les mecs sont fait buter à la guerre, comment ils font?
Bah, je sais pas comment ils font. Mais il devait y avoir quand même des passe-droits dans le cas où t'étais veuve, je pense.
Ouais, je sais pas trop.
J'imagine, j'en ai aucune idée.
C'est une question de pure logique.
Pas,
elle a peut-être pas d'intérêt dans le cadre de l'œuvre.
Et je finis rapidement mon explication. Sur la trilogie, j'ai retrouvé le titre du troisième opus qui est sorti en 2020. Lui, c'est Miroir de nos peines. Donc cette trilogie, il a voulu vraiment dépeindre les années 30 selon plusieurs aspects, l'entre-deux-guerres, la crise financière, le mauvais traitement réservé aux femmes ou aux castes populaires, Pierre Lemaitre. Mais en fait, il a plus que ça, en fait, ça lui a donné l'idée d'écrire sur tout le siècle. Et du coup, en fait, on parle d'une tétralogie. Puisqu'il a déjà sorti deux opus qui parlent des 30 Glorieuses, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Alors je sais pas quelle sera la suite, est-ce qu'il nous parlera des années 80, 90, la révolution de l'informatique, peut-être, je sais pas. Mais il m'emmène où il veut, hein, parce que ce mec-là a une plume vraiment excellente. Il sait raconter de grandes et belles histoires, et on arrive même à rigoler un petit peu parfois. Un petit peu.
Okay. Et voilà. malgré tout, parce que c'est quand même très sérieux.
Alors je l'ai pas rappelé, mais je le répète, je le redis quand même. Au revoir là-haut, quand il est sorti, c'est chez Gallimard en 2013. Il a gagné le prix Goncourt. Okay. Et ensuite, le film a lui aussi été pas mal.
Je sais qu'il a beaucoup marché, mais je sais pas. Enfin, je l'ai pas vu.
Et du coup, le maître a des, enfin, il a des connaissances historiques ou c'est juste qu'il se documente avant d'écrire et,
Alors, c'est un ancien professeur, mais pas d'histoire, pas de langue d'ailleurs. Il a donné pas mal de cours pour des adultes en plus, je crois. Il a toujours fait partie d'un milieu associatif et non, il n'y a rien dans son parcours académique en tout cas qui pousse vers ça. Je pense que c'est juste un
curieux,
un passionné, un curieux.
Une période qui l'intéresse.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et c'est un homme assez politisé, pas inintéressant à suivre, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, parce que c'est un homme lettré dans la mesure, mais qui sait dire quand même les choses, quel que soit le sujet. Et ce qu'il écrit sur les années 30, alors. Je me suis fait la réflexion parce que alors je vous ai fait passer la bande dessinée tout de suite. Moi j'avais lu le livre et là je vous avoue que j'ai pas eu le temps de me replonger complètement dans le livre, donc j'ai lu la bande dessinée parce qu'elle prend 1h30, 2h à lire et qu'elle retranscrit extrêmement bien le livre. C'est assez incroyable. Demeter, qui est la personne qui l'a transformé en BD, j'ai découvert son travail. Il a fait la première aussi et j'attends la troisième avec impatience. Il a un coup de crayon. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est un peu compliqué comme dessin.
Moi j'ai vu, ça a fait.
Mais ce qui est génial, c'est que justement,
l'histoire a l'air cool. Donc,
ça te plonge complètement dans l'ambiance du livre. Et du coup, le livre qui prend lui 8-10 heures à lire, bah tu rates pas grand chose si tu fais attention aux détails en lisant la BD.
Ouais, et puis en fait, l'aspect un peu terne de la BD, je trouve que ça colle bien avec l'époque. Quoi.
Complètement.
Bah peut-être avec l'histoire, hein, parce que oui, c'est vrai que les personnages ont un visage très gris là dans la BD.
C'est trianguleux aussi, ouais. Puis les ombrages sont.
Les couleurs sont très désaturées. Ouais, c'est très,
ouais
très
moi très ça me choque pas en fait pour le coup, pour une histoire qui parle de ça en tout cas.
Ah, mais après, je pense donc, qu'avec l'histoire ça va bien. Ouais, donc, c'est juste à première vue comme ça.
Pour boucler la boucle, je vous disais, donc quand je me suis replongé dedans pas plus tard que ce week-end. J'ai pas pu, et c'est pas pour du tout pour parler de politique ni faire de politique de comptoir, mais c'est totalement incroyable les parallèles qu'on peut faire avec une époque actuelle, ou peut-être même toutes les époques en fin de compte. Vraiment, je vous assure, ça vaut le coup. Il y a certaines situations où tu te dis c'est hallucinant parce que quand je vous dis qu'on parle de politique, son oncle qui essaie de lui emprunter un peu d'argent est député, donc on suit un peu les errements de sa députation. Enfin, c'est assez incroyable, vraiment. Si ça vous intéresse, je le laisse à la disposition et puis vous me le rendrez le mois prochain si vous voulez le lire.
Ok.
Bonne lecture. Vous pouvez très bien le lire sans avoir lu le premier.
D'accord.
C'est juste moi qui ai voulu recontextualiser pour ceux qui avaient lu ou vu le premier et qui ne connaissaient pas encore le second. Ouais. Je voulais rappeler quelques personnages forts. Et j'ai pas parlé de personnages comme il y a un personnage qui est fantastique. C'est la garde chiourne de Paul. C'est une femme des pays de l'Est. Je crois qu'elle est présentée comme polonaise, il me semble, qui vient le garder, qui a un très très fort accent, qui parle très peu français au départ, mais qui écoute énormément de musique classique et qui le fait.
Jules.
Ouais, c'est ça. Et qui fait danser Paul dans sa chambre. Elle le prend. Elle est représentée comme une femme très forte. Elle le prend dans ses bras. Elle le fait tournoyer alors que lui n'a plus l'usage de ses jambes. Et elle l'initie à la musique classique et lui deviendra complètement dingue d'une chanteuse d'opéra. Qu'il essaiera de suivre un petit peu en Europe parce qu'elle lui offre des billets. Et même quand sa mère est ruinée, ses derniers centimes, elle les donne à son fils pour qu'elle aille voir la cantatrice à Berlin. Alors que lui avait refusé en lui disant non, si vous allez chanter à Berlin, je suis plus fan de vous. Et la cantatrice le fait venir, elle lui fait venir en lui montrant son setup en fait. Donc tu comprends pas. Et en fait, il y a 2-3 pages, c'est assez rapide, où elle chante en allemand et en fait, c'est un chant. C'est un chant pour se foutre de la gueule d'Hitler et des nazis, quoi. Et elle se fait embarquer à la fin du spectacle. Tu la revois plus, c'est un personnage qui disparaît. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui sont piochées dans. Alors, il a rien réinventé, hein. Il a pioché le meilleur de pas mal de trucs, j'ai envie de dire, mais ça fait vraiment une cool histoire.
Ouais, mais
quoi.
Ça a l'air cool, ça a l'air très intéressant, ouais. Et ça me donne envie de commencer dès le début, par contre.
Ouais, bah allez-y, parce que Au revoir là-haut, c'est canonissime. Hein, alors, Au revoir là-haut, c'est plus une histoire d'escroquerie, où là, on est plutôt du côté des escrocs, entre guillemets. Même si on trouve ça un peu dégueulasse, en fait, ils bouffent de l'argent public, mais sur un truc assez dégueu, c'est qu'ils vendent des faux monuments aux morts. Il y en a un des deux qui est artiste, ils sont gueule cassée. Ils sont gueule cassée, ils pourront jamais se réinsérer dans la société, en fait, ils sont foutus. Et pour se faire du blé, ils dessinent des monuments aux morts, ils les envoient aux mairies. Et les mairies les payent 10, 15, 20 000 francs pour venir construire le monument aux morts, et le monument aux morts n'existe jamais, et il baise comme ça des dizaines de mairies en France.
Il baisse des mairies.
Voilà. Ça, c'est plus le thème du premier, et il est un peu plus drôle quand même, celui-ci, et un peu plus tendax.
Ah, c'est okay. Pour ça que Dupontel était sur le premier et pas sur le deuxième. Même s'il fait des trucs sérieux, mais ça lui va bien. Ça,
ouais, Dupontel, il t'aurait fait ça aux petits oignons aussi, le deuxième.
Oui, mais il te fait entre le sérieux et l'humour. Faut quand même qu'il y ait une touche d'humour, non, des fois.
Ouais,
Dupontel aime bien avoir une touche d'humour.
C'est sa façon de toucher au dramatique aussi.
Ah oui, non, mais c'est vraiment. Mais c'est pour ça que j'aime bien, moi, Dupontel, moi.
Ouais. Ouais,
c'est un fond sarcastique.
Non, c'est vrai, j'étais en train de chercher quelque chose de très noir et je repensais avec Dupontel au bruit des glaçons de Bertrand Blier, mais même là-dedans, en fait, c'est assez drôle. Il y a des passages assez drôles.
Non, mais c'est de l'humour noir, sarcastique, ouais, dramatique, ce que tu veux.
Des petites notes d'humour.
C'est ça, on va dire qu'il y a des petites notes d'humour. Merci messieurs, c'était brouillon. Hein. C'était brouillon.
Merci Pedro.
Non, bah c'est
chaque fois que ça me touche profondément comme ça.
On sent que ça t'a. C'est une œuvre qui t'a touché.
La vraie problématique, c'est qu'il y a des œuvres où il y a trop de personnages.
Pierre Lemaitre, sincèrement, depuis 5-6 ans, j'en ai lu 3 ou 4 de lui et il y en a un qui est ressorti, son premier qu'il a écrit en 86, qui est ressorti il y a 4-5 ans seulement, qui s'appelle Cadre Noir et qui est sorti en série aussi. Qui a été adapté en série. Et putain, mais c'est génial, le mec. Vraiment, j'adore ce qu'il fait, quoi.
Mais du coup, se plonger dans un bouquin comme ça pendant des heures, tu dois pas être bien au bout d'un moment. Parce que toi, si, une BD, un film, bon, bah, t'as des émotions, mais.
C'est
bon,
écrit comme un polar.
Alors qu'un livre, tu vas y passer beaucoup de temps. Et,
mais t'es dedans, franchement, c'est prenant, je te jure. Si tu le commences. Putain, j'aurais dû ramener le bouquin aussi, tiens. Si tu le commences, tu seras pressé de rentrer chez toi le soir pour finir. Pour avancer en tout cas.
On va peut-être essayer ça. Très bien, bah merci beaucoup Pedro.
Et de rien.
Pour cette belle œuvre. On va enchaîner sur notre petit Momo.
Voilà, oui, c'est tout. La famille d'Adon n'avait pas pu cher à temps la ville, mais ils étaient parvenus à se débrouiller malgré le siège. Jusqu'à ce que, un jour, la femme d'Adon tombe malade. Manquant de soins appropriés, Barbara a succombé. Après la mort de sa mère, Amélia s'est renfermée dans un mutisme total, puis elle est tombée malade. Une nuit, leur immeuble a été secoué par une explosion, à laquelle ils ont heureusement survécu. Adam a porté Amélia jusqu'à l'autre aile du bâtiment, dans un élan désespéré, pour sauver sa fille. Cette maudite guerre ne me prendra pas ma fille, je ne le permettrai pas, je vais trouver un moyen de la sauver.
Merci Charlie, donc vous venez d'entendre l'introduction de l'un des quelques scénarios, intitulé « La promesse du père », proposé par This War of Mine, le jeu de guerre dans lequel les dommages collatéraux sont au cœur de l'action.
Par contre, je connais pas du tout ce jeu. Je lis
Eh bien, je vous avais suggéré de l'acheter pour 10 balles avec, je sais plus, un millier d'autres jeux.
Sur un bundle.
Sur un bundle au début de la guerre en Ukraine, qui revenait directement à la Croix-Rouge.
Ça faisait partie.
Et donc, vous ne les avez pas pris.
Non. Ah si, moi je l'ai, mais je ne l'ai pas lancé. Okay. Je l'ai pas lancé.
Donc pour revenir à This War of Mine, Ixit, les gros bras armés de sulfateuses, place au crime de guerre et au désespoir.
Yes.
Oui,
c'est ça qu'on veut. Yeah.
Tous ensemble.
Donc, parce que le jeu nous propose d'incarner un groupe de 2 à 3 civils pris au piège au cours du siège de la ville fictive de Pogoren. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien puisque c'est censé être du polonais. Donc, ville fictive, certes, mais événement bien trop réel, puisque les développeurs s'inspirent très largement du siège de Sarajevo, qui débuta en 1992, et dura... Vas-y, dites-moi le nombre de jours.
Ouais, franchement, le
siège de Sarajevo,
80 jours, je sais pas.
J'aurais dit plus de 100.
375 jours.
1425 jours, messieurs, soit un peu moins de 4 ans.
Ah, je voyais pas ça si long, moi.
Eh ouais, précisément du 5 avril 92 au 29 février 96.
Ah, c'est long, hein.
Ce siège a lieu dans le cadre de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Et donc, pour vous donner quelques exemples d'événements dont s'inspire le jeu, sans le dire vraiment frontalement, mais dans le scénario La promesse du père, que j'ai mentionné en début de chronique, il se trouve que la petite Amélia va finalement être enlevée par son propre oncle, puisqu'avoir un enfant était son seul billet de sortie pour emprunter un couloir humanitaire organisé par l'aide internationale.
D'accord.
Alors ça n'aurait pu être qu'un élément de scénario, et pourtant une opération de ce type a bien existé à Sarajevo, les casques bleus ayant évacué des enfants via un tunnel d'approvisionnement bosniaque. Mmh. Il s'agit de l'opération Irma. Alors attention, j'ai aucune mention d'enlèvement d'enfants à cette occasion, j'en ai pas trouvé en tout cas, mais ma foi en l'humanité étant ce qu'elle est... Et un autre exemple, on peut retrouver dans le jeu le croisement des tireurs de l'élite qui fait référence directement à Sniper Alley. C'est la dénomination de l'avenue principale de Sarajevo lors du siège en raison du nombre de snipers qui la prenaient pour cible. L'unique source d'eau potable de la ville se trouvant sur cette avenue. Selon les estimations, les snipers ont blessé 1030 personnes et en ont tué 225. Et je ne l'ai pas noté dans la chronique, mais je l'ai en tête. Parmi ces 225 tués, il y a 60 enfants. Voilà.
J'aime cette joyeuseté.
Bonne voilà. Ambiance.
Je reviens rapidement sur l'utilisation d'une ville fictive pour la justifier. Enfin, pour moi, en tout cas, paraît justifiée parce qu'elle permet aux développeurs, d'une part, de rendre compte de l'universalité de l'expérience de la guerre pour un civil. Par exemple, on pourrait très bien se dire bon, bah voilà, il y a Sarajevo, mais il y a aussi Stalingrad. Je crois même que pas mal de gens dans la bande de Gaza se sont aussi identifiés au jeu. Et puis, elle permet aussi aux développeurs d'isoler leur propre thématique émotionnelle, pour le coup, de façon simple, sans avoir abordé tous les aspects historiques du conflit bosniaque à l'époque. Puisque c'était assez crade de tous les côtés. Mmh. On parle de quand même de... Alors, pas d'épuration, mais de nettoyage ethnique, il y a une nuance, qui sont commis de tous les côtés, en fait. Hein. Donc c'était assez crade. Et je pense qu'ils ont voulu un peu isoler ce truc-là pour vraiment reprendre un petit peu le point de vue du civil, sans se faire chier avec ces histoires de groupes armés non officiels, quoi. Donc maintenant que le contexte est posé et que vous avez bien le moral dans les chaussettes, on va se pencher sur le gameplay du jeu. Donc le but de jeu est de tenir le plus longtemps possible au sein du bâtiment en ruine que votre groupe de réfugiés occupe, chaque journée étant séparée en deux phases. Donc le jour où vous aménagez votre bâtiment, vous construisez des lits, des réchauds, des barricades, un atelier, des pièges à rats, puisqu'il faut bien se fournir de la viande également. Et vous prenez soin de votre petit groupe, donc vous les alimentez, vous les soignez et vous leur accordez un petit temps de répit pour dormir.
Ça marche personnage par personnage ou c'est un truc général ?
Alors on peut basculer d'un personnage à l'autre le jour. Mmh. On peut en faire dormir certains, on peut en alimenter d'autres, en soigner d'autres, et puis bah, leur faire construire justement tout le nécessaire.
C'est les Sims en fait.
C'est... Bah, du coup...
Est-ce que tu peux les mettre dans la piscine et enlever l'échelle?
Ils
n'ont pas besoin, ils sont déjà dans la merde.
Ils sont déjà bien assez dans la merde comme ça, je pense qu'ils ne vont pas se mettre en danger pour rien. Donc ça, c'est la phase journée où on fait tout son aménagement et on va dire on les remet bien, quoi. Et puis la nuit, vous allez jouer un des personnages uniquement pendant que les deux autres, l'autre ou les deux autres vont rester au refuge. Et ce personnage-là va être envoyé en expédition pour trouver des ressources nécessaires à la survie du petit groupe. Donc durant cette phase, vous pourrez être confronté à des personnages pacifiques ou des bandits, ça dépend. Et au terme de cette nuit-là, donc chaque début de journée, il va vous être réservé un petit lot de surprises. Tantôt l'un de vos personnages sera tombé malade, auquel cas il faudra se procurer des médicaments nécessaires à son rétablissement.
Oh, les casse-couilles.
Tantôt un pillard se sera introduit pendant la nuit, dérobant les précieuses ressources et ou... voire parfois les deux, hein, blessant l'un des personnages restés sur place, auquel cas il faudra également le soigner. Notons également qu'il y a un cycle saisonnier dans This War of Mine, donc vous avez la température qui vous est affichée en permanence, et si vous n'anticipez pas l'hiver, vous n'avez pas construit un poêle et que vous n'avez pas fait de réserve de bois, vous allez en chier bien comme il faut.
J'ai une petite question, juste quand tu disais à l'extérieur, tu peux tomber sur des pacifiques bandits, il y a vraiment un truc qui les marque ou c'est juste à toi de jauger si c'est des bandits, des pacifiques
Souvent c'est à toi de jauger, ça va dépendre de ton comportement. Par exemple, tu peux aller troquer avec des bandits par moment. Sauf que si tu traînes un peu trop dans le bâtiment et que tu fais de la merde, ils vont commencer à te trouver louche et croire que tu veux leur piquer des trucs. Donc faut faire attention.
D'accord.
Le jeu est assez interactif là-dessus. Donc en termes de jeu, on est sur des principes de jeu de survie très classiques, finalement, hein, mais la gestion de ressources, l'infiltration. Mais pour moi, il fonctionne merveilleusement bien concernant son principal véhicule d'émotion, à savoir l'empathie. Nos personnages manifestent leur faim, leur fatigue et parfois même leur ennui ou leurs addictions, notamment au tabac qui se fait de plus en plus rare, hein, on a des pénuries. Ils le font de façon assez convaincante. On apprendra un peu plus via l'environnement. Ici et là, on pourra avoir des graffitis anti-guerre. Notre radio de fortune nous informe justement des pénuries et de l'avancement du conflit. Et une fois qu'on a dit que la guerre c'est mal et que le mal c'est pas bien, est-ce que le jeu a autre chose à proposer? Et bah pour moi, oui, il reste un panel de mécaniques de gameplay que j'ai un peu passé sous silence pour la partie suivante que j'ai intitulée pour survivre à une guerre, faut-il devenir la guerre? Ou formulé autrement, qu'est-on prêt à faire pour assurer la survie de notre petit groupe?
C'était pas ma guerre.
Ouais, tu voulais dire un truc, Jean?
Non, mais c'était, ça me paraissait, c'était un peu la question que j'avais posée en fait derrière. En fait, bah c'est, oui, enfin c'est le classique, mais c'est logique.
Ouais. Et du coup, bah c'est une jeu auquel le jeu, une question auquel le jeu essaie de répondre, ou en tout cas essaie de nous faire répondre, en proposant de jouer de façon plus agressive. Vous pourrez vous fabriquer des armes à partir de pièces de revolver collectées à droite à gauche, ou encore devenir à votre tour ce pilleur que vous aviez pourtant maudit au début de votre partie. Et je vais pas vous le cacher les choses, cette façon de jouer, bien que parfois nécessaire, est une très mauvaise idée. D'une part, les pièces de revolver vous seront bien utiles pour du troc, pour fabriquer du matériel dédié à la survie de vos Sims, comme je les ai nommés maintenant.
Merde.
De deux, je rappelle que vous êtes un civil, donc vos personnages sont fragiles et non formés au maniement des armes. La plupart du temps, votre tir ne fera absolument pas mouche, vous exposant à un tir de représailles, vous tuant du même coup.
C'est malin,
c'est complètement crédible.
Ce qui est crédible. Et de trois, c'est un des aspects les plus intéressants du jeu. En plus des jauges de faim et de fatigue, chacun de vos personnages a une jauge de morale. C'est-à-dire que si vous blessez ou tuez quelqu'un, ou même que vous allez piller toutes les conserves de la petite veille d'à côté, votre personnage va s'en vouloir. Et vous aurez beau le faire discuter avec vos autres personnages ou le faire picoler, il s'en voudra pour longtemps, voire en arrivera au suicide.
En fait, il est super complet quand même, ce jeu.
Il est super complet.
On est sur quelle plateforme, là?
On est sur mobile, Switch, PC et
PS4.
Je vois pas quelle gueule ça peut avoir.
C'est de la vue de côté en permanence. Quand t'es dans ton abri, tu le vois un peu en mode de façon de poupée, on va dire.
Okay.
Donc tu vas faire tes actions, aller construire ton poêle à bois, préparer de la cuisine, machin quoi. Et puis la nuit, c'est pareil, t'es en vue de côté, tu progresses à l'intérieur des rues.
Okay. D'accord.
Donc, par exemple, là, je mentionnais tout à l'heure Sniper Alley, tu vas progresser de côté, puis à chaque tir, il va falloir que tu. Entre deux tirs, en gros, il faut que tu cours vers un nouvel abri pour pouvoir traverser la rue. Sinon, tu prends très cher aussi.
Et donc, t'as toute cette galerie de choix possibles, le faire picoler, le faire parler avec d'autres.
Ouais,
c'est incroyable.
Tu peux même fabriquer un alambic, si tu veux. Et cet alambic te sert pas qu'à picoler, mais aussi à fabriquer de quoi te soigner. Quoi.
Bah ouais, d'accord. Okay. Et puis peut-être à vendre de l'alcool, j'imagine, peut-être.
Et l'alcool en contrebande est plutôt apprécié, de même que tu peux faire pousser ton tabac justement pour de la contrebande. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Il a l'air très complet, ce jeu, enfin c'est impressionnant.
Ouais. Bah après ça reste quand même des mécaniques assez basiques, mais c'est vraiment
c'est
le contexte qui est intéressant.
C'est la mécanique de base, mais c'est toutes les possibilités, très forte.
Ouais.
C'est de l'aléatoire ou c'est genre t'avances par niveau ou...
Non, c'est pas vraiment aléatoire. Au bout d'un moment, tu commences un peu à comprendre les mécaniques, mais du coup, en gros, tu vas avoir 4, on va dire scénarios, mais c'est pas vraiment des scénarios, c'est en gros 4 possibilités de départ différentes, 4 ou 5, je sais plus, mais en gros tu vas avoir par exemple un mec qui court un peu plus vite, qui peut avoir un peu plus de charge, tu vas avoir un vieux prof qui de prime abord te sert à rien, mais finalement...
Qui serait bon pour le blabla peut-être.
Bah, est bon justement pour réconforter ou va être bon pour avoir des connaissances techniques aussi quoi. Donc c'est des trucs comme ça, et puis du coup il y a ce mode histoire là dont je vous parlais, le scénario au début où tu joues un père avec sa fille malade qui fait que tu vas vraiment suivre un scénario quoi. Mais sinon le jeu développe pas tant que ça en fait, son vrai savoir-faire c'est plutôt de te proposer d'évoluer en même temps que tes personnages et de voir comment ils évoluent avec leur déprime. Parce que tu vois, un mec qui va déprimer, même si au bout d'un moment il va oublier sa déprime, ça va revenir de temps en temps. Quoi. Ça va être mentionné par
les. T'es quand même dans un monde où t'es enfermé ou tout machin tout le temps, donc au bout d'un moment la déprime peut être présente aussi quand même.
Ouais, ça arrive aussi. Et puis il y a des jours aussi où vont très bien. Tu sais pas pourquoi. J'ai bien fait dormir machin, il est de super bonne humeur. Très bien.
Et ta friche, elle est grande comment quand
mais
t'es
qui
dans
vit sa meilleure vie pendant la guerre.
De quoi? Quand tu dis au départ, t'es plus ou moins. Tu dois plus ou moins sauver. Ton clan est plus ou moins dans une espèce de friche, c'est ça, dans un immeuble
Dans un immeuble en ruine.
Après, le clan, c'est 3-4 persos, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est, mais c'est, ah oui, ça fait c'est quelle taille tu peux te mouvoir pas mal ou pas trop?
Bah non, enfin, ça reste assez restreint. T'es à 4, ouais, je sais pas, 5-6 pièces, un truc comme ça.
D'accord, ok.
Puis, en gros, tu peux le faire un peu à l'arrache si tu veux, mais moi, ce que je fais, c'est qu'il y a une pièce où je fous les lits.
Le coin de dos, le coin de travail.
D'accord, ok.
Mais voilà, mais après, chacun s'organise comme il veut. Et puis, surtout, en fait, faut essayer de. De bien écouter tes personnages, parce que tu vas vite te rendre compte que quand ils te disent quelque chose, c'est pas gratuit. Il y en a un qui va dire ah, putain, j'ai plus de clopes,
et tu fais toujours les ouais,
j'aurais pu en trouver. Bah, essaye de lui trouver un peu de tabac ou de le temporiser d'une autre façon, j'en sais rien, mais, ou en le faisant dormir.
Je serais nul à ce jeu-là, moi.
Non, mais c'est vraiment. Vraiment
tant pis.
Ouais, c'est tout ça. Ouais, bah, va le crever, hein, t'as qu'à pas fumer. Hein.
Du coup, ma petite conclusion sur This War of Mine, c'est que pour moi, c'est un jeu un peu plus qu'un simple divertissement, dans le sens où le jeu vous fait un peu réfléchir sur la condition et les actes de civils pris malgré eux dans une guerre. Quoi. Et le jeu ne parle pas à proprement parler de grands événements historiques, du fait déjà de son contexte plus ou moins fictif, mais il appuie plutôt sa narration sur les tranches de vie, quoi. C'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure, et selon moi ça rend le propos un peu plus intelligible que d'autres jeux qui mettent en scène la guerre, pour paraphraser un peu François Truffaut qui parlait de films, mais je peux le transposer au jeu. C'est je trouve que la violence est très ambiguë dans les jeux vidéo. Par exemple, certains jeux prétendent être anti-guerre, mais je ne pense pas en avoir vu un seul qu'il soit véritablement. Tous les jeux de guerre finissent par être pro-guerre. Et bah du coup, je pense que This War of Mine réussit à contredire cette citation-là. Donc je vous invite grandement à y jouer. J'espère qu'au moment où vous déteindre votre console, la larme à l'œil, vous vous direz « En fait, c'était ma guerre. »
Oh voilà. Bah en plus, cette phrase, elle est complètement en adéquation avec ce que t'as raconté, genre dans le sens où t'as la possibilité d'aller voler les gens, machin, et tu comprends qu'en fait... Il y a quand même un parti pris de genre non, c'est quand même pas bien de faire des mauvaises choses, même dans des mauvais cas,
Alors c'est pas que c'est pas bien de faire de mauvaises choses même dans de mauvaises situations, c'est que parfois tu n'as pas le choix et qu'il faut essayer de se mesurer. Par exemple, plutôt que de, enfin, je prends cet exemple parce qu'il est simple, mais il y a des zones de la ville qui vont être bouclées par moment parce que sous les bombardements, donc tu pourras plus aller dans l'église en ruine ou t'aller fouiller dans les décombres pour choper de la bouffe. Et le seul endroit qui te reste à fouiller, c'est la maison de cette petite vieille dont je vous parlais. Donc soit tu fais ton connard et tu lui prends tout au risque de voir ton personnage déprimé, soit tu te dis bon, je fais un geste pas terrible, mais je lui prends une petite conserve par-ci et puis je me casse sans faire trop le con. Là, à la rigueur, tu mesures un petit peu ton truc, quoi. Donc c'est un peu le propos du jeu, c'est que parfois tu peux en arriver à faire de la merde, mais
tes choix ont des conséquences, mais tes choix tu peux pas forcément les prendre comme tu veux, quoi. Des fois ils sont un peu impossibles. T'as le jeu qui te met des contraintes, qui te pousse.
Ouais, c'est ça. Et justement, quand t'es dans cette contrainte-là, soit tu te dis j'ai bien prévu mon truc, j'ai mes pièges à rats partout, ou j'ai fait mon potager.
Non, j'aurais pu faire en rentrant.
Soit tu prends qu'une petite conserve pour survivre une journée de plus, ce qui est pas beaucoup. Mais au moins t'auras pas dépouillé complètement la vie.
Mais alors, est-ce que je vais être un peu pute, mais. Est-ce qu'il existe une façon de gagner un peu plus?
Ah, justement. C'est ça que je me demandais, ouais.
Moi, déjà, j'avais est-ce même que ce demandé, jeu est-ce, enfin... est-ce que tu peux te comporter comme un connard?
Est-ce qu'on peut survivre?
À mon sens, non. En fait, c'est pas l'ambition du jeu, c'est pas ce qu'il te propose. Le jeu te propose de comprendre un petit peu la situation d'un civil en situation de guerre.
Il y en avait des salauds.
Donc, en gros, tu navigues toujours sur un truc où t'es entre la faim, la soif, ouais. La déprime, le truc comme ça, et qu'il faut trouver cet équilibre-là.
Ouais, ouais, savoir gérer.
Mais t'es toujours, à un moment donné, en manque de quelque chose, de toute façon. Et c'est ça qu'il faut savoir gérer, quoi.
Okay. Mais du coup, ça se finit forcément par la mort de tes personnages, ou il y a un moment où c'est bon, c'est la fin du siège, t'as gagné ou...
Alors moi, j'avais été jusqu'à 21 jours, je crois, au max.
Ah ouais, c'est pas non plus énorme.
C'est pas énorme, et je crois que le jeu te propose d'aller jusqu'à 45 jours pour les scénarios les plus longs. 45 jours, je trouve que c'est énorme. Enfin, vraiment 21 jours, j'ai réussi avec en faisant une bonne partie, quoi. Parce que j'estimais être une bonne partie. Donc.
Mais tu sais pas si ça existe le jeu, enfin la partie où tu sors de la guerre, quoi.
Bah, je pense pas parce que.
Ça, c'est pas l'intérêt du jeu.
Moi, j'ai l'impression que le jeu veut te dire, bah, en gros, là, t'es pris dans le siège de Sarajevo, t'es dans une guerre perpétuelle, sais pas comment quand ça va finir, quoi. Donc en gros, l'intérêt c'est de te foutre dans la même situation que tes personnages, donc tu sais pas quand ça se termine. Alors, j'ai vu sur internet que c'était 45 parce qu'ils ont parlé sur jeuxvideo.com, mais le jeu l'annonce jamais vraiment. Quoi.
Et tu joues en temps réel, je veux dire, une heure dans le jeu, c'est une heure dans la IRL.
Non, c'est accéléré.
Ok. Donc 21 jours, ça se joue en quelques heures.
Je crois que c'est 4-5 heures, un truc comme ça. Je ne sais pas dire. Après, tu peux passer aussi, quand tu t'estimes avoir fini tes actions dans la baraque, tu peux passer le temps. Ah.
Et est-ce que tu as testé l'extension The Little Ones, je crois, avec plus d'enfants, où tu gères des enfants?
Alors, je l'ai pas testé, si, je l'ai vu passer, je l'ai pas testé.
Ça sent le truc horrible.
Oui, c'est l'air glauque.
Vous avez déprimé, hein, un jour. Mais.
Ouais. Bah, en fait, pour moi, le jeu, plus que
l'avertissement là-dessus, c'est que. Il propose vraiment d'avoir une réflexion sur ce truc-là, et c'est pas juste une façon de t'occuper le dimanche, quoi. Ouais. Pardon.
Voilà. Ah oh bah écoute, ça me donne envie sur. Tu dis que ça existe sur
partout
téléphone.
Partout.
Sur Android, il y a une dizaine d'euros, je crois.
Et vas-y, raconte comment qu'il s'appelle.
This War of Mine.
10.
Bah ce jeu, moi, je l'avais lancé une fois et en fait, c'était peut-être pas le bon moment. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était clairement pas le bon moment. Et du coup, je l'ai sur mon téléphone depuis des années. Et j'ai jamais trop osé le relancer. Et je pense que là, ça.
C'est l'occasion.
Ah non, ça fait des années que je l'ai sur mon téléphone.
Il coûte 99 centimes, attention.
Et téléchargement.
Il sera sur mon téléphone.
Et 99 centimes
quelques minutes, ouais.
Bah, c'est une promo.
Bah oui,
il
me semble que t'es tout ça.
Bah, allez-y maintenant.
Et par contre, l'extension The Little One est à 2,50.
Moins cher qu'un panier de fruits et légumes.
On parle ici.
Tu multiplies par 10, par 100.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Mollusque, de nous avoir remonté le moral.
Voilà. Désolé, j'étais pas là pour ça aujourd'hui.
Pleuré maintenant.
Bah, peut-être que Charlie va nous remonter le moral.
Bah oui,
bah,
bien sûr.
On ne sait pas.
Allez, jungle.
Jungle. Electrical shocker. Better leave town if you only want another. Stop it down the pressure of the glass in a rocker. See the rest they go down the escalator. Now listen to the two-train accelerator. When you realize that you gotta have a brother. Stop this pressure down and don't you want. Sooner or later. Un petit peu de clash. Ça remet un peu de... Ça se remet dedans.
Ça remet la pêche.
J'entends. Et du coup, je vais vous parler du combat ordinaire.
Oui.
D'abord, on va donner juste des infos un peu techniques, générales, sur cette série de BD française de 4 tomes, dont la première est le combat ordinaire, la deuxième, les quantités négligeables, la deuxième, ce qui est précieux, et la quatrième, planter des clous. Cette série de BD, dont l'auteur est Manu Larcenet, qui a fait Blast, par exemple, Thérapie de groupe, et plein d'autres, de toute façon, c'est un très... grand
très prolifique
BDiste français.
C'est vrai.
Le coloriste, pour info, c'est Patrice Larcenet, son frère. Voilà. Et elle a été éditée entre 2003 et 2008 chez Dargo, et a eu comme distinction prix du meilleur album officiel d'Angoulême en 2004, prix Tournesol et prix du jury œcuménique de la bande dessinée d'Angoulême 2005, et le prix Michelozzi, c'est italien.
Ah bah c'est bon, soit si tu parlais japonais donc.
Michelozzi de la bande dessinée étrangère pour un volume reprenant les deux premiers tomes. Pour info. De quoi ça cause surtout le combat ordinaire?
De guerre.
Oh. C'est l'histoire de Marco qui vient de quitter son métier de photographe de guerre et nous explique comment vivre sa vie malgré des névroses et des angoisses qu'il a depuis son enfance et qui se sont fortement renforcées à cause de son ancien métier que je vous rappelle. Ancien photographe de guerre.
Mais...
Quand je dis ancien, c'est vraiment genre il y a 2 mois, il a arrêté. Okay. On y suit les combats de vie des personnes que Marco rencontre et les siens dans son combat pour une nouvelle vie. Un synopsis simple et pourtant une série de BD avec beaucoup de profondeur et d'émotion. Franchement, parce que je sais que c'est toujours dur à expliquer le combat ordinaire, de quoi ça cause, t'es là. Faut vraiment que tu le lis, c'est vachement bien. C'est la vie d'un mec, quoi. Alors, c'est surtout suivre les névroses et les angoisses de Marco qui essaye de revivre une nouvelle vie alors que même dans son enfance, il avait déjà ses angoisses. Et bah, son métier de photographe de guerre, qui nous rappelle « C'était pas ma guerre », n'a pas du tout aidé.
Tu m'étonnes.
Donc, les syndromes de base, qu'est-ce qu'il a? Donc c'est un personnage névrosé même avant ses voyages dans les pays en guerre, même très angoissé. Des angoisses nocturnes, elle donnait des sueurs, des spasmes. D'ailleurs, ce qui est très bien fait dans le dessin, c'est que dès qu'on voit qu'il part en crise d'angoisse, tout de suite le dessin passe en rouge et noir à chaque crise.
Okay.
Du coup, on reconnaît ce moment-là. Mmh. Et dans le même genre, au passage, dans les passages en noir et blanc, ce sont les voix off de Marco. C'est-à-dire que dans tout le reste du temps, c'est on voit sa vie et tout, et des fois c'est en noir et blanc. Et c'est comme si Marco nous parlait directement.
Mmh.
T'as vraiment le noir et blanc, il nous parle, si rouge et noir, c'est moment d'angoisse. Et le reste du temps, c'est on suit son histoire.
D'accord.
Et une crise peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est vrai qu'elle est souvent causée par un quelconque bouleversement plus ou moins fort en émotion. Des fois, c'est vraiment, mais pas grand-chose. Hein. Juste quelqu'un lui fait peur, ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment des fois des trucs simples, et lui met une crise d'angoisse. Et bien sûr, il y a des moments beaucoup plus forts dans sa vie qui font que ça part plus en cacahuète. Avant de continuer sur la BD, je voulais en mettre un peu sur les faits réels, parce que les photographes de guerre, on les connaît par leurs photos, par tout ce qui se passe à côté, mais un peu moins par tout ce qui se passe dans leur vie, exactement. Et j'ai récupéré, en fait, sur Internet, quelques phrases de certains d'entre eux. Par exemple, j'ai Aidan Sullivan, donc, qui est le vice-président du département photo de Getty Images, qui a dit « Je connais beaucoup de photographes souffrant de chocs post-traumatiques. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a, à ma connaissance, demandé de l'aide. Cela fait encore l'objet d'une stigmatisation injuste. » Pour info, c'était en 2013. Je tiens à le dire. Peut-être que ça a changé entre eux. Il y avait Andrea Bruce, pas sûr Bruce, Andrea Bruce peut-être, qui a fait donc la guerre d'Irak et Afghanistan en tant que photographe de guerre. Il y a une part de culpabilité, car nous avons de la chance, contrairement aux gens que nous photographions. Je trouve que ça remet en place aussi. Dan McKellen, qui a fait la guerre civile en Chine, guerre du Vietnam et Cambodge, guerre du Biafra au Nigeria.
Ah oui, combo.
Le souvenir.
Ouais. Ouais. On me demandait parfois si je faisais des cauchemars. Je répondais non. Uniquement pendant la journée, quand mes yeux sont ouverts. Quand je suis réveillé et que ma mémoire est sur le qui-vive. J'aime la photographie. J'aime être dans ma chambre noire. Mais même ma chambre noire est tentée.
Psychopathe.
Ouais, bah ouais, mais je les comprends.
Non, c'est beau ce qu'il dit.
Ouais, mais je... Patrick Chauvel, qui a fait la guerre civile au Liban, guerre au Zaïre, manifestation islamiste au Pakistan, puis en Iran. Quand il est rentré de Syrie, j'ai bien vu que Laurent Van der Stock avait vécu des choses difficiles. Mais je lui ai pas posé de questions. Il a vu que j'avais vu. C'était assez. Et alors, du coup, un fait réel, un suicide qui rentre les esprits, c'est Kevin Carter. S'est suicidé peu de temps après avoir remporté le prix Pulitzer en 94 pour sa photo d'un enfant soudanais famélique, guetté par un vautour.
Ah bah oui, elle est
pour montrer un peu la force des choses.
Ouais, ouais, ouais.
Et bah, là, c'est général, mais ça venait avec l'article que j'ai lu. De nombreux photojournalistes mettent sur papier ce qu'ils ont vécu. C'est une façon de laisser s'envoler les images choquantes et horribles qu'ils ont pu voir par leurs appareils et leurs yeux. Ça leur fait du bien, au moins ils peuvent en parler, au moins les dire, les sortir. Il y a beaucoup de livres de photojournalistes de guerre qui existent. Et la plupart des gens, justement, en parlent en disant...
Il y en a fait cathartique pour eux.
Ouais, c'est faut lâcher parce que bah, comme je sais plus qui a dit, c'est le côté, il y a une part de culpabilité. Nous, on n'est pas à leur place.
Mais on les photographie.
On les photographie, on n'a pas à être mal alors que bah, c'est dur quand même de vivre ce qu'ils vivent, même si c'est eux, ils sont là pour photographier l'horreur. Ils sont quand même en plein milieu.
De projection.
Donc, revenons à la série de BD Le Combat Ordinaire, des sujets sensibles parce que ça ne parle pas que de ça. On va aussi parler d'un peu de psychanalyse. Qu'est-ce que c'est la psychanalyse ? Est-ce que ça fait du bien ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Tout ce que je veux. La guerre d'Algérie, avec le père du personnage principal. Comment il a vécu ? Est-ce qu'il a vraiment vécu ? Qu'est-ce qu'il a vécu en guerre d'Algérie avec un autre personnage aussi ? La relation, simplement, entre enfants et parents. Comment ça se passe avec... Donc, il faut savoir que Marco a un autre frère qui vit sur Paris. Et du coup, entre eux deux, lui qui vient en campagne... son père qui habite en Bretagne, enfin ses parents qui habitent en Bretagne, comment la relation se fait. La relation entre le travail et le sens de la vie. Parce que là, dès le début, c'est vraiment les trois premières pages, on comprend qu'il a arrêté son boulot pour se mettre tranquille, ça lui fait du bien, il n'a pas envie de revivre ça tout de suite, peut-être plus tard, on verra. Est-ce qu'il y a un intérêt à vraiment travailler et vivre sa vie ? Est-ce que le travail, c'est vivre sa vie ? Est-ce que vivre sa vie, c'est le travail ? Enfin, tout ça. Comment construire un avenir quand on est angoissé, quand on a toutes ces angoisses au milieu de tout ça ? Est-ce qu'on arrive à... Comment on arrive à gérer tout ça ? Bah, le poids des erreurs passées, que ce soit pour lui, bah, pour son père, pour ce qu'on veut, enfin... Bien sûr, malheureusement, ça aussi, c'est dans le premier album sur les quatre. On comprend que son père a Alzheimer.
Ah oui,
comment vivre Alzheimer. Ah, oui. Donc la mort, le deuil. Vous avez bien plus ou moins compris qu'il y avait des moments compliqués. Mmh. le fascisme et le racisme.
Allez.
Bien sûr. Vive la France.
Ça manque.
Surenchère.
C'est français, c'est la police française.
Surenchère de mots lugubres. Il en reste encore deux, les gars.
Oh merde.
Le monde ouvrier, les remplacements par des ouvriers moins bien payés.
Mais c'est moi qui vous ai déprimé. Je vous ai, Charlie se déforme bien aussi.
J'ai l'impression que Couleur de l'incendie, c'est presque fun. Côté.
Et aussi parce que bah, du coup, c'est un photographe, donc un artiste. Et tout le monde des artistes talentueux versus l'artiste con. Est-ce que être talentueux, ça veut dire que tu es un con? Est-ce que tu es un con parce que tu es talentueux?
Oh,
ou est-ce que tu es obligé d'être tout ça, tout ça?
Oui, oui.
Bref, comment s'en sortir? Quand même. Bah, tout simplement, il a commencé par juste dire « Je vais vivre en campagne. » Son chat, le silence, le calme, la tranquillité.
Ah bah putain, merci, hein, c'est encore plus lugubre.
Ah bah, après, ça fait qu'à son truc. Hein. Quand en fait, faut savoir que lui, avait d'origine et il vivait à Paris, comme son frère. Ouais. Et à chaque fois qu'il revenait, il était dans Paris. Et du coup, en fait, là, il est revenu encore... Je sais plus si on dit la guerre, d'ailleurs. Je sais plus quelle guerre il revient. Mais bref, il a dit je me casse à Paris, je vais en.
Ah bah tiens, c'est pas lui qui a écrit Le Retour à la Terre aussi, hein. C'est une série de BD de
oui,
Manuel Arsenal,
c'est vrai,
Retour
oui.
à la Terre.
Blast aussi, c'est lui.
Blast, c'est lui.
Ouais,
Blast, thérapie de groupe pour les deux. Des rencontres. Le chasseur, pour le coup, c'est un peu le retour à la réalité. On vient au fascisme et racisme, on est vraiment sur la caricature. Le petit vieux. Alors, le petit vieux, c'est vraiment une des meilleures rencontres, je trouve, pour moi. Parce que c'est la rencontre bienveillante, énigmatique, philosophique, et c'est aussi un deuxième dommage collatéral.
C'est un petit vieux de Perceval, énigmatique,
ah,
philosophique.
Oui, ouais. Ouais.
Mais en vrai, c'est vraiment comme ça, parce qu'il est très intéressant, il est très gentil aussi, il est très empathique. Le vieux, en tout cas avec Marco, notre personnage qu'on suit. Et en même temps, il y a toute une histoire autour de lui, et c'est une autre personne qui a un deuxième dommage collatéral. La vétérinaire, une rencontre amoureuse, bien sûr.
Uh-huh.
Les artistes photographes, très intéressant parce que tu parles avec des gens qui sont dans ton métier et en même temps on vient sur le côté on est talentueux mais on est quand même des cons. Les ouvriers de l'atelier 22, c'est là où en fait c'est un ouvrier d'un doc où travaillait son père et qui va photographier, qui va, enfin il y a tout plein de trucs et on revient sur le côté social. Et la maison d'édition où il y a des bons côtés et des mauvais côtés. En vrai, il y a un peu des deux. Et le dernier point, comment s'en sortir, en vrai c'est un nouveau combat. Je trouve que c'est le point le plus important. C'est en fait, c'est justement avec ces ouvriers de l'atelier 22 qui devient une lutte ouvrière, parce que du coup, ils vont peut-être fermer le doc ou pas, est-ce qu'ils vont se faire remplacer et tout, donc on attaque les grèves. Donc avec un plan social, retraite anticipée et départ volontaire. Et lui, la prise de photos de tout ça et tout, est-ce qu'il peut aider, via son talent de photographe, à faire ressortir
c'est
tout ça.
C'est là que vient le qu'est issu le titre, non, du conflit.
Le combat ordinaire, en fait, c'est plus dans l'idée que la vie, c'est un combat ordinaire. Tout se passe.
D'accord.
La moindre chose. En fait, on a toujours l'impression que ça nous tombe dessus et que c'est jamais arrivé à d'autres gens. Mais si, c'est bien sûr que ça arrive à d'autres gens.
C'est un très, très bon titre des Fatal Picard aussi qui ont
ouais, puis
un morceau sur le piquet de grève.
C'est juste pour avoir lu le premier tome parce que j'ai lu que celui-là. Mais j'ai l'impression que le personnage est, même dans les moments d'apaisement, toujours en train de faire des choix aussi qui demandent des efforts finalement.
Il est très angoissé.
Il est très angoissé, mais aussi il a aussi dans ces moments d'apaisement, il essaye de faire des choix un peu engagés. Quoi, et je pense que ça peut représenter aussi ce truc-là.
C'est pour ça en fait que je vous ai fait une liste un peu longue et même peut-être pas assez longue parce que aussi on va savoir comment faire son avenir. C'est-à-dire qu'avec la vétérinaire, ça se passe bien. Mais est-ce qu'il va réussir à gérer pour aller plus loin, pour faire des gosses, vivre avec elle et tout machin. Et ça se passe vraiment sur 4 tomes et petit à petit avec son frère, ça se passe très bien. Lui qui, bah, du coup, son frère sort avec une rebeu à Paris. Et on est à l'époque où, parce que vraiment il y a des scènes là-dessus, Chirac a gagné contre Le Pen. Donc, du coup, dans le premier album, t'as Chirac et Le Pen au deuxième tour. Donc là, t'as la copine de son frère qui est là, sérieux, putain, pays de fascistes et tout, c'est quoi et tout, machin, enfin voilà, d'immigration du coup arabe. Et du coup, on voit le deuxième tour, elle fait oui, mais de toute façon, en même temps, c'est même pas à gagner, ça s'appelle.
C'est victoire à la Pyrrhus.
C'est ouais, voilà, enfin, des trucs comme ça, quoi. Du coup, ça va vraiment parler de plein de sujets différents, enfin, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, c'est ça, je trouve que c'est dur à expliquer cette BD, parce que c'est plein de petits moments, grâce aux personnages autour et grâce aux personnages de base, qui fait que c'est fort. Au premier tome, il a un chat, et bon, je vous fais un petit spoil, il a rencontré un putain de chasseur connard, qui dit « c'est ma propriété privée, ton chat, faut pas qu'il soit là, c'est pas là, À la fin, il va pas très bien, le chat.
Ok. Bah voilà, génial.
Mais c'est plein de petits trucs, et en même temps, à côté, grâce à la blessure du chat, il a rencontré sa vétérinaire. Donc c'est tout un truc de... C'est le combat ordinaire de la vie, quoi. C'est tout un truc. T'as des hauts, des bas, y a des moments, bah lui, c'est toujours angoissé, c'est son frère qui va le gérer, et puis un jour, bah son frère, il va pas bien, et c'est à lui de le gérer, pour une fois. Pour X raisons. Enfin, c'est pour plein de trucs comme ça. Donc c'est des hauts, des bas. Et franchement, c'est très intéressant, ça se lit en 2 secondes. J'ai relié les 4 tomes en 2h30.
Ah oui, ouais, ça va vite.
C'est au format belge, de toute façon.
Français.
C'est français, ça.
C'est français.
Non, c'est français, belge.
J'ai cru que t'avais dit c'est belge. Excuse-moi. Oui, c'est le format belge. C'est le format belge de la BD.
Mettons-vous d'accord. Franco-belge.
Oui, mais non, c'est le format belge. C'est belge. Voilà. Pour conclure, la vie de Marco dans Le Combat Ordinaire est une vie comme une autre, avec ses hauts et ses bas. On adore le suivre, vivre sa vie, faire ses rencontres, s'émouvoir avec lui, s'énerver avec lui. Manu Larsenet a réussi avec une histoire ordinaire à me captiver en montrant la réalité. Belle, dure, joyeuse, lugubre, mortelle, passée, future. Cette série de BD est l'une de mes préférées et j'ai plus qu'apprécié m'y replonger pour préparer cette chronique. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller de lire et relire la série de BD de Manu Larsenet que je viens de vous présenter, Le Combat Ordinaire.
Voilà.
Oui, parce que c'est ça aussi. Il y a aussi des moments de joie et des.
Ouais, il y a les moments de joie.
C'est des tranches de vie en fait.
Je sais pas. Et le nombre de fois où globalement, des potes qui fument des pétards et quand il est avec son pote, avec son frère, et chaque fois qu'il sort là, il fait qu'est-ce qu'on fait ? Des gros pétards. Bah bien sûr. T'as plein de moments super cool quoi.
Cet épisode était sponsorisé par Tranxen.
Putain. Eh ben merci beaucoup Charlie. Oui, en effet, c'était pas un épisode des plus faciles, des plus gays, mais plein d'œuvres passionnantes malgré tout. Moi en tout cas, ça m'a donné très envie, j'espère que ça vous
de
aura
faire la
donné
guerre.
Envie. De faire la guerre. Le mec a rien compris au sujet. Moi j'aime la guerre. C'est ma guerre. C'est ma guerre.
Est-ce que après tout ça, vous avez des recommandations d'œuvres que vous auriez découvertes ou redécouvert ce mois-ci, pas forcément sur
je suis complètement dans le mainstream total en ce moment, je suis sur Hogwarts Legacy, le jeu.
Ah oui. Ouais.
Et en fait, j'ai mis un peu de temps pour lui-même, parce que je me suis dit, je vais regarder ce que ça donne selon les critiques, ou les gens qui jouent, et en vrai, bah du coup, tout le monde a dit que c'était quand même plutôt cool, et c'est vraiment trop bien.
Tu confirmes?
Enfin, je reconfirme, ça fait 28 heures que je suis.
Ouais. 23 heures, je crois.
28.
Okay. Bah, du coup pour mes recos vu que j'avais hésité à en parler, je vais rapidement parler de DMZ. En gros, c'est un comics qui prend place pendant la seconde guerre d'indépendance aux États-Unis, donc une guerre fictive, et qui va séparer New York en deux parties avec une DMZ au milieu, donc une zone démilitarisée au milieu, et il se trouve que un hélicoptère de journalistes va se faire abattre au-dessus de cette zone-là, et le seul survivant va être un des stagiaires reporters qui va devoir évoluer un petit peu tant bien que mal dans la zone, puisque bah, il se retrouve isolé. Donc il apprend à vivre dans la zone tout en continuant à envoyer des informations au nord de New York, je crois, qui sont plus ou moins les gentils, mais c'est plus compliqué que ça parce que c'est politique. Et voilà, donc c'est une super série aussi, si vous voulez parler de la guerre autrement. Et c'était aussi une façon pour les auteurs de parler de la guerre, en débunkant un peu le discours de gens qui disaient « Oh oui, mais moi, s'il y avait la guerre dans mon pays, je fuirais pas, je combattrais. » Et en fait, ces mecs-là voulaient aussi montrer « Bah non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. » Et arrêter avec ces discours-là.
C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas voulu rebondir, mais justement, c'était vraiment la phrase genre « De toute façon, s'il y avait la guerre chez moi, moi, je ferais pas la guerre. » Ou l'inverse. « S'il y avait la guerre, je la ferais. » Je fais « Tu peux pas savoir.
Ouais,
ouais,
en fait,
Voilà,
bah, en gros, c'était la volonté des auteurs quand ils ont écrit ça. Donc, c'est un super comics. Alors, je sais que Pépé a pas trop aimé.
Non, j'ai pas accroché au premier tome. Bah, c'est le dessin qui me dérangeait.
Ouais, le dessin est un petit peu très un peu épais.
Mais t'as quand même un côté personnage qui se vole un peu badass au début. Par rapport aux propos, je trouvais que c'était bizarre d'essayer de mettre des personnages badass. Bon, mais voilà, après, j'ai pas poussé très loin.
Bah, ouais, en tout cas, moi, je trouve que l'approche est intéressante. Et sinon, une série que j'ai matée sur, sur Arte, parce que je me suis désabonné de, des plateformes Netflix, Prime et compagnie. Du coup, je mate sur Arte maintenant et je me suis maté In the Flesh, qui est super cool. En gros, c'est une série de zombies, mais on est après l'apocalypse zombie et les médecins ont trouvé un traitement pour rétablir un petit peu l'activité cérébrale
des zombies.
Des zombies pour le coup. Donc ils redeviennent pas normaux parce qu'ils sont...
Du coup, ils deviennent Darmanin.
Ouh.
Je l'ai pas cité tout à l'heure, mais
j'ai pas compris la vanne, mais
bah, dans le sens où on leur met juste un tout petit peu d'activité cérébrale.
Ah oui. Non, mais bah, du coup, cérébralement, ils redeviennent normaux, mais
ah, ça, oui, complètement.
Ils restent quand même très de la phare, ça reste des cadavres ambulants, quoi. Ouais. Et du coup, bah, la question, c'est de les réintégrer à la société et de voir comment, comment on fait avec ça, avec, sachant qu'il y a eu des milices qui sont montées pendant l'apocalypse, qui les abattaient, qui veulent toujours les abattre, donc ils veulent pas les réintégrer à la société. Donc il y a tout cette opposition politique qui va se faire, et c'est super intéressant à suivre aussi.
Normalement, s'ils sont vaccinés, c'est bon, mais...
C'est ça. Ils ont un vaccin par jour, pour le coup. Quoi, mais voilà, c'était mes deux petits recos du jour.
J'aime bien.
Ouais, c'est chouette.
Ouais. Dans les jeux, ça me fait un moment que ça me démange. Quand je passe chez toi et que je vois le gros tome... T'as un gros tome, non?
Une Nuit de Flèche?
Non, de DMZ.
Ah, DMZ, oui. Yeah. In the Flesh, ouais. C'est une série. Mais oui, DMZ, je les ai tous. Il y en a 6.
Je vais t'emprunter ça un jour.
Très bien.
Angelo, est-ce que t'as une petite reco?
Non.
les t-shirts de
vous
sport.
Vous me faites chier.
J'ai envie de faire caca et de manger et de dormir. C'est marqué sur ton front.
Enregistré.
Ouais, c'est pas fini, mon gars.
Je me réserve.
Moi, j'avais pas prévu de reco, mais j'ai pensé au dernier jeu là que j'ai fini il y a quelques jours. Là, bien détendu. Ça, c'est Train 4.
Et c'est... t'a détendu ça.
Putain, ouais. J'ai toujours trouvé frustrant les trains.
Ah ouais, c'est pas...
C'est un jeu de réflexion. Et en plus, celui-là est vraiment, vraiment magnifique.
La DA est belle.
À chaque fois, les scènes sont super belles.
Les textures sont
et
un peu
belles. T'as quelques scènes de combat qui étaient pas nécessaires.
Désolé, je connais pas du tout, moi.
Mais c'est un jeu de réflexion. En fait, ouais. T'incarnes soit un magicien qui fait apparaître des cubes, des boules ou des planches, ou alors une archère qui a un arc avec des flèches de feu ou de glace, ou un guerrier avec un bouclier, une épée, et tu switches d'un personnage à l'autre pour résoudre des énigmes.
Ah, d'accord, c'est un truc
tout simplement.
C'est un puzzle game.
Voilà, en fait, au début t'as l'impression que c'est un jeu de plateforme, mais en fait pas du tout. C'est chaque écran c'est un puzzle, donc c'est ultra frustrant. Enfin, moi,
non parce que c'est pas si compliqué que ça. Je me suis retrouvé bloqué. Le max que j'ai été, c'est 10 minutes une fois ou deux.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que
t'as pas de patience.
Non, c'est pas ça. Pépé ne le dit pas, mais en fait, c'est à la base, c'est un jeu coopératif, c'est un puzzle game coopératif, donc c'est-à-dire que t'as plusieurs joueurs qui ont chacun un personnage stéréotypé et tu dois coopérer pour avancer. Enfin, je veux dire, si tu joues seul, c'est pas la même expérience.
À la base, le tout premier Train, je crois pas que tu pouvais jouer à plusieurs, c'était vraiment tu switchais d'un personnage à l'autre. Ils ont gardé ce mécanisme sur les 4 épisodes. Et t'as le mode online qui a dû arriver, en tout cas sur le 4.
Il y a un online en plus.
C'est peut-être pour ça que j'étais frustré, c'est que j'ai joué contre Angelo et qu'il est tellement con qu'on passe du temps à... Je passe du temps à lui expliquer comment résoudre l'énigme.
Choisis tes gens, joue pas à Portal avec Angelo.
J'ai un souvenir de toi qui reste coincé sur une corniche et on s'engueulait pour lui changer de lune, qui était resté derrière comme un connard. Mais bref, ouais, non,
ça peut être sur quoi ça? C'est que sur PC ou...
Non, c'est PC parce qu'il y a tout là tout à l'heure.
Switch,
peut-être pas mobile, mais
même oui.
Enfin, en tout cas, moi ça m'a détendu. Un petit jeu, je voulais pas d'action, quoi. Je voulais faire une petite pause avec le jeu d'action.
T'as pas d'action,
mais ça m'a fait du bien.
T'as toujours pas joué avec Claire, merde, comment il s'appelle?
It Takes Two.
Non, toujours, j'ai pas
ça,
toujours,
faut le faire.
Il y a Valence qui est sorti aussi, celui qu'on a vu aux Itours là, il est sorti.
Ouais, mais c'est Claire, si tu m'écoutes.
Claire,
elle va être mettre une manette dans les mains.
Vous pouvez jouer à blanc, il dure 3-4 fois.
Oh, Charlie, c'est venu beaucoup trop rapidement ce rire.
Pourquoi il a rien
Ah, faut expliquer parce qu'on a, pas vu. On a pas...
Charlie a eu une réaction à Claire. Je vais te mettre une manette.
Ah, oui, j'ai parlé trop lentement.
Tu as marqué un immense blanc.
T'as parlé lentement.
Claire.
Je vais te mettre, il a pas dû te mettre une carte.
Ah,
non, est-ce qu'il restait des recos à faire? Parce que moi, il m'en reste une dernière.
On a fait le tour,
je tiens à recommander à tout le monde de faire très attention aux gens qui veulent vous rembourser vos impôts, aux gens qui veulent vous vendre des voyages à Marrakech aux gens qui veulent vous vendre des fruits et légumes en porte-à-porte.
Surtout des carottes.
ou genre, si vous avez une amende à régler sur l'NTS par texto aussi.
Oui, les amendes, non.
Ouais, bref, faites gaffe.
Bref, attention à vous. Et on vous fait des gros bisous.
Et on va vous mettre une grosse manette dans les mains.
Allez, ciao.
Ciao.
Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
J'aime me battre.
Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetard.
J'ai bien à me s'enfuir.
Il était comment?
Il était de dos.
On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
Hasta la vista, baby.